Yeah boy, je regarde le line-up aujourd'hui. C'est un line-up qui est hyper hallucinant, les amis. Je sais pas si on va réussir à faire passer tout le monde. Jeff Fortin qui vient de rentrer en studio. Salut man, content de t'avoir avec nous autres. Pascal qui est là, qui a de l'air en shape.
Oui.
Ouais.
Ah oui.
Malgré le fait qu'elle a dû réaliser une performance magistrale hier à l'atelier. Je te félicite. T'étais bonne à faire des drinks. T'as fait beaucoup de dégâts. Mais t'étais bonne.
Pourquoi est-ce que tu dis que j'ai fait des dégâts?
Ben,
je t'ai même pas vu à côté de moi plus de 20 secondes.
Pas plus que 20 secondes, mais Pinchot, regarde-moi. Tu sais, quand je te dis la vérité, je te regarde dans les yeux. Elle m'a demandé, à la fin de la soirée, alors que je m'en allais, c'était genre 9h15, là, elle m'a demandé, elle a dit « Non, non, toi, j'ai besoin de toi. » Je me suis dit « Elle est dans la merde avec un gars. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? »
Ah, oh, Yannick, c'est, je sais où tu... Non, j'ai caché.
C'est lequel que je fesse? Elle me dit « Tu peux-tu rattacher ma brassière? »
C'est pas ça que j'ai dit.
J'ai dit non. Demande ça à une autre.
C'est pas ce que j'ai dit.
T'as pas vraiment demandé ça, Pascal.
Audrey.
J'ai dit, moi, je touche pas à ça. Quoique 20$, c'est 20$.
Mais attends, elle avait pas de brassard, par exemple.
Ben, c'est son affaire qu'elle
avait. Son top en arrière, qui est attaché sa...
Tu peux pas demander ça à un collègue de travail, Pascal.
Là, rectifie la situation, parce que là, moi, il me regarde dans les yeux.
Avec
tu comprends? Là, j'entends la contrebalance.
Avec toutes les rumeurs qu'on entend, tu peux pas me demander ça. Je peux pas attacher ta brassière.
Je suis en train de regarder dans les politiques internes au niveau de l'Atelier Communication.
On n'est pas sûr que c'est acceptable.
Ça pourrait être vu comme un geste.
C'est tellement triste.
Veux-tu donner ta version des faits?
Ben, je vais donner la version. C'est pas des faits, pas la mienne. J'avais un top qui s'attache au cou et qui s'attache au dos. OK? C'était Hawaiian Surf pour les gens qui ont manqué la thématique.
Oui.
Puis, à un moment donné, je suis entourée de plein d'inconnus. Mais chaque qui slack en arrière dans le dos.
Oui, puis c'est le genre de top que si ça slack dans le dos, tu te ramasses à l'air.
Genre, exact. J'ai pas juste des cocktails à offrir si jamais ça arrive. Puis c'était pas mon but.
Fait que tu comprends? Moi, être en danger, c'est sûr que je vais l'aider. Elle se fait enlever. Je suis genre comme Liam Neeson, tu sais. Je vais parler au gars au téléphone, puis je vais dire... Je vais te retrouver.
Ah, ça, c'est bon, hein, dans ce film-là.
Mais j'étais en danger, vraiment, là.
Mais demander dans un bar de rattacher son top ou sa brassière...
C'est non.
Hey,
c'est non.
Je dis, peux-tu venir ici 30 secondes? J'étais entourée de plein d'inconnus. Le seul qui est là, c'est Yann.
Oui.
Je l'amène en arrière du surf. Je suis comme, hey, tu peux-tu subtilement comme me rattacher d'eau plus serré?
Non.
Je me suis dit, c'est là que je dégage.
T'as dit non!
Il a quitté.
Je touche pas à ça, moi.
Il a quitté, puis il y a quelqu'un qui a entendu, puis qui avait genre pitié que je la connais même pas. Puis elle m'a dit, moi, je vais te le faire.
Non,
finalement, c'est la blonde à Bérénice, mais une animatrice qui était là aussi.
Oui.
Mais elle a tellement eu pitié, elle a tellement senti que genre j'étais dépourvue de moyens, j'avais besoin d'aide. Mm-hmm. Puis j'avais pas demandé au petit, tu sais, à Elliot, avec qui il a 21 ans, qui était mon mixologue de la soirée, qui est full content d'être là, mais je veux dire, on se connaît pas plus que pour la soirée.
Moi, me demander ça, j'ai fait, tu sais, comme haut les mains, là. J'ai élevé les mains dans
les
airs.
Il a quitté en me regardant en disant, débrouille-toi.
Puis je dégage.
Je suis d'accord avec Yannick.
Oh.
Merci, Jeff.
Non, mais c'est vrai, une bad
pourquoi,
luck.
Pourquoi, pour vrai?
Ben, une bad luck. Je sais pas, moi, une bad luck,
bad luck.
Qu'il l'accroche.
À tous les fois.
Sans faire exprès.
Un, t'as rien accroché sur moi.
Et
là, ça,
et là, par la suite, les deux chicanent trois jours plus tard. Oublie ça.
Exactement.
T'as bien fait.
Rien accroché sur moi.
Mais non.
Non,
quand
non,
même, tu vas accrocher, t'accroches quoi? Mes os?
Je suis team Yann.
Hey, tu me frottes le ventre.
Sensible, j'aime ça.
Hey, toutes les rumeurs qui circulent, touche pas à ça.
Oh, Seigneur.
Je trouve ça vraiment le fun, Yannick, que t'en parles de même au lieu de dire yes, tu sais, on a super bien représenté Leclerc Communication, Martin Dallaire, moi, on a fait en sorte qu'on était dans les tops.
Hey, le Dragon Rouge partait de loin parce qu'ils l'ont caché. C'est lui le grand gagnant. Je pense qu'il a gagné. Sur sept éditions,
oui.
Il en a gagné 3-4.
En fait, là, t'as les juges qui votent puis t'as le public. Martin était deuxième dans les juges.
Ouais.
Moi, j'étais troisième pour le drink dans les juges et j'ai gagné prix du public, un, puis Martin, deux.
Mais il n'a rien gagné, Martin?
Ben,
mais
il était en deuxième
position.
Top 3,
c'est un podium.
OK, mais il m'a dit qu'il avait gagné.
Oui, mais je l'ai regardé un matin et je dis, oh, ben deux, là.
Il n'y a pas le prix des juges,
Martin. Il a gagné
Martin.
La deuxième
faut
position.
Dire les vrais enfants.
Mais il a gagné pareil.
Mais ils ont comme saboté parce qu'ils l'ont mis dans un coin à part parce qu'ils ne voulaient pas que le Dragon Rouge gagne. Mais finalement, moi, j'ai donné tous mes colliers.
Non,
moi, j'ai voté pour Pascal.
Oui,
son
ça.
Ben, il y en avait vraiment beaucoup de bons. C'est tough, ces soirées-là.
Le gagnant, là, c'était vraiment le meilleur drink, honnêtement. Le gagnant des juges.
On n'a pas
le choix
de dire Phil Couture, notre ancien collègue, qui est rendu chez les compétiteurs. Mais c'est ça qui est le fun dans cette soirée-là, c'est que c'est plein de gens des médias, tu te retrouves. Pis,
ouais, y a on parle de... aussi hier.
Oui, c'est vraiment cool. T'sais, des fois, on niaise bien avec la compétition, mais on est tous des artisans de radio, là, fait que c'était le fun.
Exact. Donc, on a jasé avec les auditeurs puis les amis dans les médias. J'ai-tu bien vu que Denis Gravel est de retour?
Oui, avec un masque et peu, je trouve, de teint. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en onde, mais il semble être un guerrier aujourd'hui.
Valérie Gaudreau va être là, chroniqueuse au soleil. Louis Gauthier va être là aussi, notre chroniqueur international sur la route. Puis on a un prix qui a été gagné hier à l'atelier. Pascal me dit, Yann, j'ai gagné un prix. C'est un être humain, il s'appelle Olivier Primo.
Ah!
C'est ce que tu me dis.
Pour vrai, là, je suis tellement au bout. OK, Yannick, je t'ai dit ça de même. Parfait, mon beau garçon. Non, mais ça fait longtemps que je veux qu'il vienne nous jaser. Ce gars-là, il commence à faire beaucoup le tour politique. Il rencontrait encore ce matin Christine Fréchette. Il est allé à l'Assemblée nationale. Il a parlé au PQ, à Paul Saint-Pierre, Plamondon et tout.
Ouais.
Parce qu'il veut valoriser l'eau qu'on a sur notre territoire. Puis hier, ben, veut pas, après l'événement, je me suis retrouvée avec une petite gang. Il était là. Je te l'ai aligné, puis j'ai dit, là, tu vas venir à Québec. Puis il a dit, texte-moi, puis je vais venir. Puis finalement, ben, il vient officiellement à 12h30. Il va nous parler de ça, puis pourquoi c'est important pour lui, en fait, cette quête-là. Mais c'est un entrepreneur, vous le savez. Oui, il est influenceur aussi. On l'a connu pour le Beach Club. Assurément, on peut se demander si les gens le prennent au sérieux, mais chose certaine, lui veut valoriser un plan de l'eau aux élus politiques actuellement.
All right. Puis notre chum Jeff Fortin qui est là pour nous parler du tournoi des Quatre Nations. Hey, oui. Ça commence ce soir. Est-ce que, par texto, le 418-971-101, est-ce que vous allez être arrivé devant votre écran ce soir? Moi, avec Sid de Kid, vous me gagnez ce
c'est
soir.
C'est clair. Hey, moi, un matin, j'avais trois bougonneux avec moi. Reg Laplanche, Max Larouche puis Kevin Dubé qui est de là. Moi, ça me passionne pas la Coupe des Quatre Nations. Hey, moi, je suis crinqué, ben raide.
C'est-tu du 5 contre 5?
C'est du 5 contre 5.
Je l'aurais fait, moi, un genre de 3 contre 3.
Ouais, ça aurait fait du spectacle, mais c'est parce
pour
que...
Pour augmenter la vitesse. Là.
Ouais, mais c'est du 5 contre 5. On veut voir comment les équipes sont prêtes pour les prochains JO de 2028. Capitaine Crosby va avoir son C avec son chandail du Canada. Moi, quand je suis comme toi, juste ça, ouais. Je veux être rivé devant mon téléviseur.
Sais-tu qui est-ce qui m'a fait embarquer encore plus dans le tournoi des Quatre Nations?
Qui?
C'est Samuel Montembeau. Quand j'ai vu la gueule, j'en ai parlé hier, là, il y avait la gueule tout souriant d'un bambin de 4 ans qui voyait des joueurs de hockey professionnels embarqués, alors que lui joue dans la Ligue nationale.
C'est ça.
Il était tout content de voir tous ces gars-là qui sont, on va se le dire, là, tout un power play. Là. Tu sais, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ligne, c'est des gars de power play.
Ben oui, écoute, le power play, tu vas avoir Makar avec Crosby, McKinnon, McDavid, puis ça va sûrement être Marner, l'autre, ou peut-être Braden Point. On pourrait donner ça à Sam Reinhart pour qu'il score des buts. Hey, ça va être totalement hallucinant de voir ça à l'œil. Puis d'un autre côté, ben, les États-Unis aussi ont un excellent club. Là, on ne se le cachera pas là, au niveau de l'attaque. Là, je vous nomme des noms comme ça. Kyle Connors, un des meilleurs marqueurs de Ligue nationale avec les Jets. Ouais. Jack Eichel, Austin Matthews, Jake Gensel, Jack Hughes. Ça va être tout simplement extraordinaire le calibre de jeu qu'on va avoir sur la patinoire à partir de ce soir.
Ça part ce soir, 12 février. C'est à 20h. Je pense que c'est sur les ondes de TVA.
En plein ça.
C'est le Canada contre la Suède. Du côté de la Suède, on va avoir qui?
Ah, la Suède, vraiment pas un mauvais club. T'es présentement, ils sont classés 3e. On parle Canada-États-Unis comme premier et deux. Suède et Finlande, 4e. Mais des excellents joueurs là, du côté de la Suède. Un de leurs meilleurs attaquants, William Nylander, qui est avec les Maple Leafs de Toronto, connaît des très bonnes saisons. Elias Pettersson, l'excellent attaquant des Canucks de Vancouver. On pense à Mika Zibanejad avec les Rangers. Le jeune Lucas Raymond. La défensive est très intéressante pour la Suède. Là. Mathias Ekholm qui est avec les Oilers. Rasmus Dahlin avec les Sabres. Gustav Forsling qui a très bien fait l'an passé dans les séries avec les Panthers. Le vétéran Victor Hedman. Donc on est très bien nantis en défensive. Trois bons gardiens de but avec Hallmark, Markstrom et Gustafsson. La Suède n'est pas à prendre à la légère là, ce soir pour le Canada.
Quelqu'un qui m'écrit, il me dit « Salut, Coupe des Quatre Nations, j'aurais souhaité voir Sidney Crosby avec Connor McDavid puis Connor Bedard. » C'est sa petite déception à lui.
Ouais.
Cela dit, on va peut-être les voir aux Olympiques. Là,
ah, exactement. Bedard va faire équipe olympique l'an prochain. En 2028, c'est clair, il va être rendu là. On en parlait ce matin, c'est ce que j'ai hâte de voir. Les États-Unis ont misé, ils ont pris tous ceux qui ont le plus de talent, ils ont mis ça dans leur équipe. Le Canada est quand même allé dans sa stratégie habituelle, c'est-à-dire d'aller chercher des joueurs d'énergie pour ton troisième, quatrième trio.
Oui, ils se sont inspirés du hockey junior. Ça a l'air qu'il y a eu des beaux résultats.
Oui, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que j'ai hâte de voir. Parce que je pense à Sam Bennett, Anthony Cirelli, par exemple. T'sais. On pourrait parler d'un Brad Marchand aussi, mais c'est un vétéran. Il a déjà gagné des compétitions internationales. Travis Konecny, c'est le genre de joueur que tu dis « OK, ouais. »
Mais t'as-tu l'impression que les gars vont jouer comme si leur vie en dépendait ou c'est un tournoi un peu comme pour se montrer, là, pour donner un spectacle? Tu sais, il va-tu avoir des mises en échec fracassantes?
Je m'attends pas à ce que ça frappe tant que ça. Parce que
donc, pourquoi aller chercher des joueurs d'énergie?
Ouais, parce que les gars jouent pareil avec l'esprit en tête qu'ils ont un contrat Ligue nationale avec leur équipe. Fait que peut-être plus le tournoi va avancer, par contre, que ça va devenir un peu plus physique. Mais chose certaine, tous les gars prennent ça à cœur. Tu représentes ton pays, tu veux pas perdre. Là. Surtout si t'es le Canada. Tu joues tes premiers matchs à Montréal, après ça, tu vas aller en terrain style à Boston. Tu veux pas perdre ces matchs-là.
Ouais, je sais pas si Pascal peut embarquer dans la discussion. J'imagine que oui, mais tu sais, on dit souvent que le sport doit être apolitique. La politique a pas d'affaires dans le sport. D'ailleurs, on a dit aux gens, excusez-le, mais pour ce qui est de l'hymne national, il y a des joueurs américains qui font partie du club de hockey canadien, exemple, ouais. Comme Cole Caulfield, Lane Hudson, puis de huer l'hymne national américain, c'est un peu weirdo. Fait que faites attention. Moi, j'étais pour ça. Pourquoi on a exclu encore la Russie?
On exclut encore la Russie parce que la Russie est encore dans une invasion de l'Ukraine. C'est pour ça qu'on l'exclut.
Je pense qu'il y a des différences entre, mettons, ce que tu exposes puis d'exclure la Russie, comme on a vu en Deuxième Guerre mondiale, aussi l'Allemagne, qui n'a pas eu toujours sa place là, dans les Jeux olympiques et autres, mais versus ce qui se passe en Arabie saoudite en ce moment. Parce qu'il y a quand même, en ce moment, de la politique dans tout ce qui est monté, puis on est en train de recruter les meilleurs joueurs au monde avec des salaires faramineux. Ça, c'est déplorable.
Mais les joueurs, tu comprends? Les joueurs, je veux dire, ils n'ont pas rapport avec Vladimir Poutine.
Non, en effet. C'est des sanctions qui existent depuis que la Russie a fait cette offensive-là. Ouais. On l'a vu également aux Jeux olympiques. C'est pour tenter de faire bouger les choses différemment. Ça n'a pas eu cet impact-là du tout là, dans les décisions là, prises là, par Vladimir Poutine et les Russes.
Mais il n'y a pas vraiment de possibilité de s'en sortir, toi, quand tu es un joueur, mettons, que tu es russe, que tu aimerais juste compétitionner. Puis il y a beaucoup de Russes qui sont en désaccord avec ce qui se passe en Ukraine puis avec l'invasion. Là. Je sais pas.
Au même titre que Justin Trudeau nous ressemble pas toutes. Donald Trump ressemble pas à toutes les Américains.
Moi, ce qui me brise plus le cœur, je te dirais, c'est pas tant les professionnels russes que les jeunes joueurs russes qui peuvent plus participer au championnat mondial junior. Ouais. Ça, c'est des gars qui, mais écoute, ils ont zéro à faire avec la politique. Il y en a d'autres que tu pourrais critiquer parce que je vais donner un exemple d'Ovechkin qui a déjà fait des matchs truqués avec Poutine pour bien le faire paraître au hockey. Fait que, bon,
mais ils veulent faire ses efforts, un peu comme Donald Trump avec ses tarifs aussi, là, commence à en donner à plein de pays, même ceux qui n'ont pas vraiment rapport dans sa conquête économique. Ben, pour lui, il décide de frapper économiquement, mais je pense que aussi par rapport à l'appui et ce qui se passe dans le monde, ben, c'est une frappe sportive, malheureusement. Mais,
Mais tu sais, le Canadien, c'est foutu de ça. Là. Les joueurs du Canadien, pas les joueurs du Canadien, l'organisation du Canadien s'est rendue en Russie pour voir Demidov. Il y a comme un peu d'hypocrisie. Moi, si vous me dites que le hockey est apolitique, que le sport est apolitique, je suis entièrement d'accord avec ça. Les joueurs ne représentent pas nécessairement le président d'un pays ou le premier ministre d'un pays. Fait que tu le fais ou tu le fais pas?
Ouais. Les équipes, je te dirais, sont apolitiques. Puis le Canadien l'a prouvé en se rendant en Russie. La Ligue nationale, je crois que pour continuer à bien paraître face à la Fédération de hockey, face au monde entier, se dote d'une politique anti-russe parce que sinon, ça serait très mal vu dans l'opinion publique.
Jeff, je sais que tu as un gros entraînement sur l'heure du midi, fait que je vais te laisser partir, cher ami. Donc, ce soir, confrontation des quatre nations, ça débute à 20h. C'est le Canada contre la Suède. C'est présenté sur les ondes de TVA. On s'en parle demain, mon ami?
Yes, on s'en parle demain. Go Canada, go!
Salut, bye-bye. Bon. Il restait-tu des trucs à régler, nous autres, avec l'atelier et tout ça?
Ben, si c'était aussi niaiseux que j'ai pas voulu attacher ton bandeau dans ton dos. Non, on a fait le tour!
J'ai bien fait, hein? J'ai encore des chums ici à la station. Moins 16 degrés sur Québec, c'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Si vous êtes au grand vent, là, c'est un genre de moins 20 comme température ressentie. C'est ensoleillé tout au long de la journée. Par contre, ce soir, les vents devraient se mêler à la danse avec un peu de neige. On parle de neige et de poudrerie entre 2 et 4 cm. Et c'est cette nuit et demain matin que ça va commencer à se gâcher, puis pas à peu près. On parle entre 15 et 25 mm annoncés. Donc, c'est presque 30 cm là, en deux jours pour ce qui est de la grande région de Québec. Certains endroits au Québec, ce serait plus de 40 cm, là, 45 cm que j'ai lu. Ça va être assez hallucinant. Donc, on salue les gens qui travaillent dans le déneigement. Comme Audrey Pinchot le disait tout à l'heure, dormez chez un ami. Si vous voulez vous rendre au travail, spécialement si vous travaillez à la radio, là, c'est son conseil de la soirée.
C'est correct, ça. Ouais. Ben oui, elle est prévoyante et bienveillante.
Mais non, mais c'est parce que j'expliquais que si je retourne chez moi ce soir et qu'il fait vraiment pas beau...
Je viens pas demain.
Je pourrais pas rentrer demain.
Je comprends.
C'est bien trop mauvais sur les routes.
Fait que tu dors chez toi.
Je peux pas mettre ma vie en danger, tu
Donc,
comprends?
Tu dors chez toi.
Ben, j'ai pas le choix de dormir chez nous parce que c'est mon anniversaire de couple aujourd'hui. Ah. Fait que tu comprends, il faut que je rentre à la maison auprès de mon conjoint.
Oui, c'est important.
C'est important, fait que j'ai pas le choix de retourner à la maison.
Mais
fait
tes ovaires vont claquer demain pareil. Là.
Je pense pas. Je pense que c'est vraiment ce soir, fait que demain, je
En plus, c'est pas petit, je veux dire, elle paye un loyer. Là.
Mais là, c'est ça. Faut que je vive dedans, Yann. Je paye pas pour rien, là, franchement.
Voyons.
On n'a pas tout de l'argent comme toi.
Mais honnêtement, un choix à distance, ça se fait.
Ouais.
Mais t'as pas l'équipement de
mais
mémoire.
C'est ça. Ils ont pas prévu ça. C'est ça, Pascal. J'ai rien.
Tu sais, on a essayé. On a brainstormé sur une solution, là.
Ça, t'avais raison, mais j'ai pas de plug chez nous. Nous autres, on a pas l'électricité. Fait que
ah,
même
des chambos,
c'est
pas
ça,
rendu.
C'est pas rendu. Fait que même si je voulais avoir l'équipement pour faire la radio.
T'es-tu en calèche quand tu as travaillé aussi?
Ben, jusqu'à peu près Saint-Augustin-de-Desmaures. Après ça, je peux prendre mon véhicule dans le stationnement morning.
Ils ont comme un petit foyer à l'intérieur de la maison, mais ils allument ça avec des roches.
C'est ça.
Ils cognent les roches.
C'est ça, sont même ça. Le connaissant, là, il tripe pour vrai.
Donc demain, ça va brasser comme pas possible, les amis. Vendredi, alternance soleil-nuage avec un maximum de moins 9 degrés. Et si je vais jusqu'au week-end, maximum de moins 10 pour samedi avec des nuages, quelques éclaircies pour samedi. Et dimanche, ce sera de la neige tout au long de la journée, maximum de moins 8 degrés. Dans l'actualité, qu'est-ce qui t'a marqué?
Plusieurs petites choses. On va commencer avec Lévis, Isabelle Demers, qui sera candidate à la mairie de Lévis. Vous le savez, Gilles Laulier a décidé de quitter. La responsable des finances du comité exécutif de la ville de Lévis, c'est elle, Isabelle Demers, et elle succède à Gilles Laulier à la tête de Lévis Force 10 et veut aussi briguer la mairie aux prochaines élections de novembre. Est-ce que vous la connaissez assez, Jean de Lévis? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous êtes content? 418-971-1021. François Legault revient dans l'actualité avec l'aluminium. On réfléchit à une taxe sur l'exportation vers les États-Unis. C'est un peu ce qu'il décide en fait d'offrir pour Donald Trump. D'offrir, vous savez, c'est comme un cheval de Troie. Est-ce qu'il est assez fort? Ben là, je vous laisse vous questionner là-dessus. Est-ce que ça va fonctionner? Je vous laisse aussi vous questionner là-dessus. Mais il était à Washington. Il a parlé avec ses homologues et aussi l'équipe de Trump. Et on a lancé l'idée des tarifs, justement, là, du côté du Québec face aux États-Unis à ce moment-là. Justin Trudeau, lui, il est où? Ben, il est de l'autre côté de l'océan. Il est à Bruxelles en ce moment. Et ce qui ressort de ses discours, c'est qu'il n'y aura jamais de 51e État au Canada. C'est ce qu'il a martelé majoritairement pendant son passage à Bruxelles. Et il a été très, très clair là-dessus. Lui, il ne veut pas et ne pense pas que ça va arriver, même si sa tournée était brève. Je te dirais que pas mal tous les journaux citent la même chose, même les journaux internationaux. Il y a eu des rencontres qu'il qualifie d'inspirantes là, pour les Canadiens et les Canadiennes. Est-ce que ça va servir à quelque chose? C'est une bonne question pour la suite. Mais il a dit que le gouvernement allait revoir un peu là, ses objectifs pour l'OTAN, surtout en matière de dépenses militaires. Est-ce qu'on va en ajouter? Est-ce qu'on va mieux faire des affaires avec les autres pays alliés que l'on connaît depuis des années, la question se pose. Sinon, quelque chose d'assez tragique dans l'actualité qui fait beaucoup, beaucoup jaser, en fait, c'est les proches de la jeune femme de 21 ans qui est décédée dans un accident de la route. C'était un secteur qui s'est dit dangereux aux éboulements. Okay. Ça s'est passé le week-end dernier. Et là, ils disent qu'ils se réconfortent parce qu'au moins, ils ont pu lui dire qu'ils l'aimaient avant son départ. Ça, c'est une chose. Mais c'est plutôt l'accident qui retient l'attention là, dans l'actualité.
De ce que je comprends, elle a parlé avec ses parents la veille, c'est ça?
Oui, puis elle se rendait là, chez elle après son quart de nuit. Comme préposée aux bénéficiaires, elle a travaillé au centre d'hébergement de Baie-Saint-Paul. Puis c'est là que le drame s'est produit. À 9 h le samedi, la jeune femme de 21 ans était sur la 362 en direction est, puis elle a dévié de sa voie. Paf! Dans un VUS, dans une courbe. C'est près du chemin Capozois. Et les occupants des deux véhicules ont été grièvement blessés. Elle a succombé à ses blessures. Fait que c'est une route qui est revue, qui fort probablement fera discuter aussi, mais on dit que où c'est arrivé, c'est très accidentogène, puis dangereux. Donc, le maire des éboulements, Emmanuel Deschênes, veut peut-être qu'on revoie cette route-là.
Oui, puis il faut se méfier en conduite hivernale, on dirait. Puis je sais pas si il y a juste moi qui a remarqué ça, là, mais moi, j'ai des pneus que j'ai quand même payé un bon prix.
Ouais,
c'est
chose.
Beaucoup trop cher. Là. Je pense que ça m'a coûté 2 000 quelques piastres pour remplacer mes pneus de Wrangler. Puis ce matin, j'avais pas d'adhérence en raison du fait que la gomme est tellement rendue dure que quand tu freines, j'ai dû faire un petit freinage ce matin parce que j'ai reçu le soleil directement en face sur ma vitre qui n'était pas dégivrée.
C'est ma nouvelle peur là, au volant. Là.
Écoute, c'est passé de « je vois tout » à
« je vois plus rien.
Absolument rien ». Puis là, je savais, parce que j'avais regardé les dernières secondes en arrière, s'il y avait des gens qui me suivaient, puis je me souvenais de ce qui était devant moi. Mais j'ai freiné assez rapidement. Puis ça a glissé, puis mon truck est parti comme d'un côté, tu sais, dans un angle de 45 degrés. Puis là, je me suis stationné le temps que tout dégivre convenablement et tout ça. Mais avec cette froideur-là, la gommette est tellement dure que même dans les courbes, là, ça se peut que tu passes tout droite. Là.
Ça faisait ça dans le parc la dernière fois que je l'ai pris dans les deux dernières semaines aussi. Là, puis je suis pas habituée de dérailler. Là. Je pense qu'il y a une affaire que je maîtrise, mettons, c'est cette conduite-là. Ouais. Là, puis le parc, si je ne l'ai pas fait 100 fois, puis j'exagère pas, je ne l'ai pas fait 100 fois. Je l'ai tellement fait, je le connais, le parc des Laurentides, mais dévier comme ça, là, jusqu'à ton auto, whoop, à part comme si tu étais actuellement quelque chose de super léger là, qui pogne au vent, là, rarement vu
puis,
ça.
Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça, mais moi, les gens de ma génération, puis plus vieille que moi, la génération plus vieille, on pouvait passer l'année au complet avec des pneus 4 saisons là, qui avaient beaucoup moins d'adhérence que les pneus d'hiver qu'on est obligé aujourd'hui d'utiliser. Puis je ne me souviens pas si c'était aussi glissant. C'est-tu le manque d'entretien des routes qui fait défaillance aujourd'hui, qui fait en sorte qu'on a l'impression que c'est plus glissant aujourd'hui? Mais il y a des gens qui passaient à l'année, c'était sur le 4 saisons sans aucun problème. Puis là, j'ai des pneus d'hiver, puis je trouve que ça glisse comme pas possible.
Je veux la raison, parce que j'ai peine à croire que c'est ce que tu nous évoques.
Tu sais, faudrait demander à Mathieu Thomassin, on lui parle demain. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une impression qu'on a parce que l'entretien des routes est peut-être un peu moins bien fait qu'elle était faite avant.
Peut-être, mais j'ai de la misère à adhérer à cette
parce qu'un pneu d'hiver à moins 25, là, ça vaut pas de la marde. Là,
oui, à un moment donné, il y a une limite. Il
faut juste que tu te méfies.
Que tu fasses attention,
mais
tu vas
pas
vite.
Un pneu 4 saisons dans le temps, c'est encore pire qu'un pneu d'hiver. Fait que, y a pas de raison pour laquelle on a l'impression aujourd'hui que les pneus sont, voyons, ils adhèrent plus comme
puis
ça.
Selon ce que tu achètes aussi, tu as des pneus qui vont être super bons sur la glace noire, d'autres qui vont être super bons dans ce qui est plus l'accumulation de neige en genre de slush. Même l'été, c'est la même chose. Tu as des pneus à clous qui est pour la glace. Il faut que tu choisisses en condition.
Des pneus à clous l'été, c'est un peu intense. Là.
Non, c'est l'hiver. Ouais. On est à la même place. J'ai dit sur la glace. J'ai dit des pneus à clous sur la glace.
Ouais.
Mais aussi, il faut que tu regardes c'est quoi tes chemins. Où est-ce que tu circules? T'es-tu plus en campagne? L'achat des pneus, c'est pas juste ce que j'aimerais ou ce que j'ai lu dans le Protégez-vous. Là. C'est selon où tu conduis. Qu'est-ce que tu fais comme route?
Ouais.
T'en fais-tu beaucoup? Il faut être adapté. Les pneus d'été, eux, c'est par rapport à la pluie ou justement à la chaleur de ta gomme. Tout est à regarder selon toi, ton type de conduite et ta voiture.
Mais ce matin, ça aurait bien fait, là, des pneus à clous. Mais là, des pneus à clous sur un Wrangler, ça serait... Écoute, il faudrait que j'hypothèque mes
c'est
pneus.
C'est un tank aussi, là, après. Là.
J'hypothèque mes pneus. OK, hey, on fait une courte pause. Après la pause, l'excellent Denis Gravel sera là pour le Pit Stop. On va entre autres parler de hockey. C'est rare qu'on parle de sport avec Denis, on va en parler de hockey.
C'est rare qu'on parle de sport avec Denis.
Est-ce que le hockey devrait être plus enseigné dans les écoles? Est-ce que le patin devrait être enseigné dans les écoles? On en parle avec Denis tantôt. Marceau. Ah, c'est le grand retour de l'enfant malade. Denis Gravel qui est en studio avec nous autres. On l'a vu masqué ce matin. Ça faisait penser à quand on avait la fameuse pandémie des stations de radio, on avait des lignes à terre à suivre. Comme dans les pharmacies.
Il y avait des plexiglas entre nous aussi.
Pour ne pas se croiser, des plexiglas. Il y avait des gens qui se promenaient avec pour aseptiser à peu près tout. Il fallait se nettoyer les mains tout le temps.
Puis ça va tout le temps nous ramener là. Hein. Dès qu'on va porter le masque pour essayer de ne pas être contagieux puis de ne pas prendre de chance puis que tout le monde ne tombe pas malade, ça nous ramène dans ces années-là de cauchemar. Hey, désolé de vous avoir failli.
Mais non, mais j'espère.
J'ai été 36 heures dans mon lit à suffoquer, à geler, à faire de la fièvre, à avoir mal au ventre, au cœur, à l'estomac. Bref, c'est comme si la mi-temps de Kendrick Lamar avait duré 2 jours.
Ah, Denis Ravel! L'enfer!
C'était long.
Toi, t'as préparé pendant 2 jours, celle-là aussi, là, cette joke-là.
Non, 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 ça vient de sortir de même, voyons
donc.
Je suis le dernier Nord-Américain à me prononcer sur la mi-temps. Ouais, j'ai eu le temps de penser en masse.
Vas-tu écouter une confrontation des quatre nations ce soir?
Oui, ça intéresse les gars, beaucoup.
Ben, je comprends.
Puis je me demandais, tu sais, quand Sidney Crosby a été blessé, il a manqué un match avec les Penguins de Pittsburgh.
Ouais.
On en parlait avec Max, puis on se disait, oh non, ça recommence. Tu sais, le monde qui s'invente des blessures avant le match des Étoiles, on a vécu ça pendant trop d'années, puis je me disais, ben voyons, représenter son pays, tu sais, c'est un nouveau contexte, donner une chance au concept. C'était mal connaître Sidney Crosby. Je l'ai entendu dans les entrevues à Sport 30 ce matin, puis tu sais, il va être là, il va s'impliquer, oui. Il est dedans, il se rappelle le Golden Goal, il se rappelle de ses souvenirs. C'est beau de voir Brad Marchand porter le rouge. Il y a plein d'affaires tripantes. Nous autres, les Bruins, on a des joueurs dans toutes les équipes. Je suis excité quand même. Oui. J'ai hâte de voir le tournoi.
J'avais fait du 3 contre 3. T'sais, pour augmenter la vitesse, les gars sont tellement talentueux. C'est sûr que pour ce qui est du Canada, on a parlé tantôt avec Jeff, on a pris des décisions différentes. C'est-à-dire oui. qu'on est allé chercher des joueurs d'énergie aussi comparativement aux autres pays.
On a essayé de bâtir une équipe de hockey.
Ouais.
Puis c'est pour ça que j'ai hâte de voir. Ça va peut-être. C'est du 5 contre 5?
Oui.
J'espère que la marde va pogner un peu. T'sais? Parce que sans marde, notre sport national, c'est pas pareil. Ouais. Hein? Faut que ça ressemble plus à une game de série qu'à un match des étoiles.
T'sais. Exactement.
Ouais. Ouais.
Fait que c'est pour ça que j'aurais mis ça du 3 contre 3 en prenant les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Puis finalement, ils ont fait du 5 contre 5. Puis le Canada s'est inspiré de l'excellente équipe de hockey junior au championnat mondial. Ils se sont dit, hey, ils ont bâti ça comme une équipe de hockey. Nous autres, on va faire la même affaire.
On va faire pareil. Ça marche.
En espérant un résultat différent. Hein? Ça, c'est l'intelligence. Ouais, toujours faire la même affaire.
Jusqu'à ce que ça marche.
Ouais, mais ce qui nous tue pas nous rend plus fous. Hein?
Ouais. Quand ça va faire 40 fois que je le dis, une fois sur 39, m'avoir raison.
OK. Est-ce qu'un sport national comme le hockey devrait être appris très jeune à l'école, Denis? En raison du fait qu'aujourd'hui, le hockey coûte extrêmement cher. Enrico Ciccone, le député libéral puis l'ancien joueur de hockey de la Ligue nationale, parlait de ça. Il dit, moi, si les bâtons avaient été à 400$ comme ils sont aujourd'hui, mon père m'aurait jamais permis de jouer au hockey. Puis je fais partie de ces gens-là aussi. Je veux dire, nous autres, on était très pauvres. Puis quand j'allais jouer au hockey, j'étais dans une ligue, ma mère, elle devait mettre de l'argent de côté tout au long de l'année pour me permettre d'aller là. Même des fois, il n'avait pas assez. Fait qu'on avait de l'aide pour que je puisse jouer au hockey. Aujourd'hui, je pourrais pas jouer au hockey.
Hey, c'est bien trop cher. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, tu souhaites... Tu sais, dans mes prières le soir, moi, je suis un gars très religieux. Là, t'sais. Je prie pour que tout le monde ait une belle journée. Je prie pour la santé de mes parents. Pour
ma santé mentale.
Pour ma santé mentale, pour la sécurité de mes enfants. Mais surtout, Seigneur, faites que mon grand pète pas son bâton. J'ai plus une scène pour ça, là. Non, mais je sais d'où vient Enrico Ciccone. Puis je trouve que c'est une belle idée romantique de notre sport national. Mais je pense que la réalité a changé autour. Tu sais, le sport s'est diversifié au Québec. On jouait pas au soccer avant. Là, on joue au soccer. Le soccer, ça coûte pas mal moins cher. Je pense que le but, au total tout, c'est que tout le monde fasse du sport. Puis Véro m'a envoyé un Moses de bon reportage en fin de semaine sur la Norvège. Sais-tu ce qui se passe en Norvège avec le sport? Ils ont essayé... Il y a des lois qui ont été faites sur le sport et les jeunes.
Ouais.
Tu n'as pas le droit d'avoir de compétition dans le sport avant l'âge de 13 ans. OK? Et l'objectif que la Norvège avait avec ça, c'est de dire, ils vont apprendre à avoir du plaisir d'abord, et parce qu'ils ont appris à avoir du plaisir d'abord, on va avoir plus de monde qui font du sport et plus de talent au total tout. C'était un pari risqué. Moi, le premier, tu m'expliques ça, j'ai pas le goût de croire à ça, mais les résultats sont là. Il y a plus de monde qui performe dans les sports en Norvège. C'est un pays qui maintenant gagne sa part de médailles par rapport à avant. Puis il y a un taux, j'ai pas le chiffre devant moi, mais il y a un taux hallucinant de jeunes qui font du sport. Je pense qu'il y a un 20 % d'écart, mettons, entre la Norvège puis nous autres.
Ouais.
Fait que, pour répondre, là, j'ai fait un grand détour pour répondre à ta question. Le hockey, notre sport national, d'accord. Que les jeunes continuent à jouer au hockey, d'accord. Qu'on oblige ça à l'école d'apprendre le patin, moi, je vois plus, on peut ouvrir une voie. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'essayer le plus grand nombre de sports possibles pour que chacun trouve le sien. T'sais.
Parce que mon plus vieux, à l'école, il est encore au primaire, il est en cinquième année. À tous les midis, il peut jouer au hockey. avec ses chums sur patin, ce qui est quand même assez rare.
C'est mon Dieu,
même
oui.
Même que, tu sais, le service scolaire, il y a toujours des belles décisions qui se prennent dans les services scolaires. Là, ils ont interdit aux enfants d'amener leur patin à l'école. Ben, tu sais quoi? À l'école, ils prêtent des patins aux enfants.
C'est donc bien
cool. Je sais pas si c'est exclusif à cette école-là en Beauce, mais moi, j'ai trouvé ça super nice.
Il y a des beaucerons qui vont te texter. Là.
Ouais. Mais le point d'Enrico Ciccone sur l'argent que ça coûte jouer au hockey aujourd'hui est valable. Puis,
absolument.
Est-ce qu'on peut l'inclure au primaire? Est-ce qu'on peut l'inclure au secondaire? Puis qu'à la gang, on paye tout ça parce que c'est notre sport national.
Ouais.
Ben moi, je pense que oui, mais au même titre qu'on devrait compenser aussi pour les filles qui veulent rien savoir du hockey, mais qui veulent faire du patinage artistique parce que ça touche le patin aussi.
Es-tu d'accord que, de façon générale, le sport doit prendre une plus grande place?
Ben oui.
Bon, moi, je suis d'accord avec ce principe-là aussi. Sur le comment, maintenant... Écoute, je le sais pas, faut regarder ce qui se passe ailleurs. T'sais, la Norvège est peut-être un bon exemple, il y en a peut-être d'autres aussi, parce que on se le cachera pas, là, le bassin de talent de hockeyeurs québécois n'est plus ce qu'il a déjà été. Puis on continue à s'entêter, à former nos jeunes sensiblement de la même façon. Pendant ce temps-là, le hockey américain, le talent commençait à sortir de là.
Oui.
Avant, il y en avait pas mal moins. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, que nous autres, on fait pas? C'est-tu juste l'adaptation scolaire qui est différente? Y a-tu d'autres choses qui sont faites différemment aussi? Je pense qu'il faut s'ouvrir. Il y a beaucoup de gens avec des œillères, je pense, chez Hockey Québec, là, de la façon que je comprends. On a même un gars sympathique qui a comme dit « Moi, de la merde, je m'occupe plus d'eux autres. »
Jocelyn Thibault.
Jocelyn Thibault, exactement. Il a essayé de brasser la cage, puis ça n'a pas fait. Fait qu'il a décidé de partir par dépit, ce qui est triste.
Mais quand une organisation comme Hockey Québec est en guerre à l'interne depuis plus de 20 ans, là, à un moment donné, il faudrait peut-être faire le ménage dans cette organisation-là.
Ben là, c'est parce que tu perds du temps que tu consacres pas aux jeunes. Là.
Exact.
Ouais.
Exact. Donc, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Fait que salutations à Enrico Ciccone d'amener ça dans les sujets. J'ai d'autres choses à te jaser. Pierre Fitzgibbon, Fitzgibbon, c'est quoi son vrai nom?
L'amoureux.
Pierre?
L'amoureux.
Fitzgibbon, l'amoureux, a démissionné de son poste. Il s'est fait démissionner, en fait, de son poste de ministre et de député de sa circonscription. De mémoire, c'était la circonscription de Terrebonne.
Oui.
Ça fait déjà quelques mois qu'il n'y a plus personne qui est dans cette circonscription-là. Puis on a décidé de déclencher les élections partielles hier. Puis on a même posé la question à François Legault, tu sais, qu'est-ce que ça représentait des partielles pour le parti de la coalition Avenir Québec. Puis il disait, faut faire attention, les partielles, parce que vous savez, quand il y a des partielles, les gens en profitent pour montrer leur mécontentement au gouvernement qui est en place. Fait qu'ils préparent déjà une défaite.
Mm-hmm.
Là, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? T'sais, je veux dire, c'est rien de rassurant pour le gars ou la fille qui va se présenter.
Je te suis.
Dans Jean Talon, c'est exactement ça qui est arrivé.
Oui.
Finalement, c'est le député du Parti québécois, Pascal Paradis, qui est passé.
Dans Jean Talon, on a au moins fait semblant d'y croire.
Semblant? Il croyait vraiment?
Oui, oui. Pour vrai, oui. Ben oui, le lendemain, il dit « Bon, ben, on va remettre le troisième lien sur la liste de cadeaux. »
Le soir, il était terrorisé, François Legault. Il avait l'impression qu'il perdait sa job ce soir-là.
Ah non, ça n'a pas été une belle virée, ça.
J'ai dit François Paradis ou Pascal Paradis? Je pense que c'est Pascal Paradis.
Oui, François Paradis, on est ailleurs.
Là, je me suis dit...
Collègue.
J'apprends des choses.
Ah, ça, c'est pas fait.
Mais pourquoi François Legault nous apprend que dans la circonscription de Terrebonne, où il y a des élections partielles qui ont été déclenchées dans les dernières heures, il nous apprend déjà qu'il y aura possiblement une défaite. Je me suis dit, c'est qui le candidat vedette? Je vais vous le faire entendre.
Pau petit.
Je veux pas vous dire son nom avant, OK? Je vais vous le faire entendre. Puis dites-vous que c'est ce gars-là, dans sa circonscription, qui va remplacer le super ministre, qu'on l'aime ou l'aime pas, Pierre Fitzgibbon. Attention.
Salut tout le monde, je m'appelle Alex Gagné. Je suis un petit gars de la région de la Lanaudière, puis je me trouve d'ailleurs au cœur du vieux Terrebonne pour vous annoncer que je vais porter les couleurs de la coalition Avenir Québec pour l'élection partielle dans Terrebonne. J'ai hâte de vous voir sur le terrain, puis à bientôt.
Alex, je t'aime déjà.
Alex Gagné qui va gagner.
C'est pas fin de faire ça un jeune.
Je t'aime déjà, Alex, mais... Le premier ministre a dit que tu passerais pas.
Mais il doit le savoir.
Ben oui, mais il l'envoie à la boucherie.
Le gars s'est fait dire, excuse, on a besoin de quelqu'un. T'es un gars brillant.
Tu vas apprendre des choses, là.
J'espère qu'ils ont au moins été très transparents avec lui.
Ben, si tu pars perdant...
Salut tout le monde, je m'appelle Alex Gagné. J'ai un petit gars de la région de la Nodière, puis je me trouve d'ailleurs au cœur du Lieu-Terrebonne pour vous annoncer.
Ouais.
Tu sais, juste ça,
c'est le vocabulaire.
On est en politique, là.
Le clash avec Pierre Fitzgibbon est violent, c'est le moins qu'on puisse dire. Je veux que des jeunes s'impliquent en politique. Je veux que des jeunes plongent à pleines dents, passionnés en politique.
Mais le représentant syndical d'Amazon, lui, il n'était pas disponible.
Non, ben, parle-moi pas là-dessus, mais je m'en retombé malade.
J'ai jamais eu d'entrevue avec Pierre Fitzgibbon, puis on m'avait dit qu'il était grand, mais je savais pas à quel point il était grand, puis je l'avais croisé dans un restaurant dans le Vieux-Québec, puis tu sais, le temps que je le reconnais, je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là qui est plus grand qu'un cadre de porte?
Ah ouais, t'es sérieux, là?
Ben toi, t'es grand, fait que tu verras pas une super de grande différence entre toi et lui, okay. Mais moi, j'étais à 5 et 10. Uh-huh. Lui, il est à 6 et 5, 6 et 6.
Ben voyons donc, toi.
Il a 70 ans.
6 et 5, t'es sérieux?
Ah, pas mal persuadé. Moi, je l'ai croisé, là, puis il a au moins une tête et demie plus que moi. Puis il est vraiment impressionnant. C'est un super ministre. Puis il remplace ça par Alex, qui est super gentil, qui va être le king des ados.
Oui, mais tu vas pas... Là, en passant politiquement, tu vas pas tuer quelqu'un politiquement dans une partielle où t'es probablement certain de pas gagner.
Ils ont décidé qu'ils perdaient.
Quand les prochaines élections s'en viennent, honnêtement, décision stratégique normale. Cependant... Je répète, j'espère qu'ils ont été transparents avec le petit gars. Là,
Denis commence à avoir de l'empathie pour les gens.
Ben, il y en a déjà eu plus que toi.
Salut
souvent.
Tout le monde, je m'appelle Alex Gagné. J'ai un petit gars de la région de la Nodière.
Non, mais c'est parce que, mettons, je me dis... ben, je suis rendu empathique, pourquoi? Parce que maintenant, je pense à mes garçons. Puis je me dis, si j'ai un garçon qui veut faire de la politique puis qui se laisse enfirouaper par François Legault puis qui s'en va se faire... Excusez-moi l'expression. Crisser une volée dans une partielle qui veut rien dire... Je serais pas content.
Si je prenais pas la politique aussi à cheval que je la prends, là, je dirais faire une campagne pour que tout le monde vote pour lui, pour virer Legault dans ses shorts.
Ben, j'y souhaite de gagner. J'y souhaite de gagner, là. C'est pauvre gars.
On va peut-être en parler un jour comme un premier ministre. On le sait pas, là.
Ouais,
puis apprendre la défaite, ça a de l'air que ça fait partie de la vie.
J'ai...
Quel clash, hein? Pierre Fitzgibbon... Oh.
Puis un petit gars de la Nausière.
Ben oui, c'est... voilà.
Salut tout le monde, je suis un petit gars de la Nausière.
Moi, je veux pas qu'on rit de lui. Il fait déjà de rire de lui par son parti.
On rit de la situation.
Puis on souhaite
qu'il gagne. Moi, je veux pas rire du kid.
Attends un peu. Je fais une dissociation entre deux, trois moments, là. On va vivre ensemble.
Denis, je veux te parler de ça, puis j'aimerais que les auditeurs participent à la conversation avec Pascal. Ça te dérange-tu tant que ça, toi, que les épiceries, le dimanche, aient plus que 4 employés? Moi, là, sérieux, ce règlement-là...
C'est loi stupide pour en trop de cuter le monde.
Me tuer.
C'est incroyable. C'est incroyable.
Puis j'ai appris ça des années 2000, tu sais, qu'il y avait un règlement pour les épiceries, que le dimanche, tu devais pas avoir plus que 4 employés. Puis c'est un propriétaire d'épicerie qui me dit, oh, oui, ça, c'est le gouvernement, c'est pour protéger les dépanneurs.
Protéger les dépanneurs. Ils ont tous fermé pareil. Combien de dépanneurs ont fermé dans les 10 dernières années dans la région de Québec? J'en avais 3 dans le coin de chez nous, tout fermé.
Ils ont tout fermé.
Ben oui,
c'est des grosses bannières. Il y a des couches-tard maintenant, les Irving.
Les gens qui vont à l'épicerie vont faire leur épicerie. Les gens qui ont une vie font leur épicerie le dimanche soir. Parce qu'ils savent que... Parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. La réalité, c'est ça.
Mais là, vous êtes en train de m'expliquer. Si je suis leurré, vous m'expliquez. Là. Mais vous êtes en train de me dire qu'il y a une loi maintenant, depuis quelques
longtemps.
Années, où le dimanche, dans des épiceries près de chez nous, tu n'as pas le droit d'avoir plus que 4 employés pour s'assurer que le service ne soit pas excellent et donc vide pas les dépanneurs de leurs clients.
Exact.
J'ai bien compris.
Oh, oui, oui. Donc, ça a déjà été une loi plus sévère, si je me souviens bien, qui couvrait une plus grande période. Puis on se ramassait des fins de semaine, des files de 45 paniers, tout du monde en sacrament, qui se disait, mais
l'été,
oui, mais
qu'est-ce
que ça donne?
Tu ne
serais pas allé au dépanneur de toute manière?
Non,
là?
Non. Tu vas au dépanneur, t'achètes un Monsieur Freeze, un chip, un coke, puis une caisse.
Tu sais, le lait pour tes enfants, le ci, le ça, les serviettes sanitaires, je comprends qu'il y en
une
a.
Une slush en revenant du hockey.
C'est une urgence, là. Mais... En même temps, est-ce que tu as besoin de te faire conseiller là-dessus? Non, mais tu as besoin de payer rapidement.
Y a-tu du monde qui font leur épicerie au Dollarama? Absolument. Mais il n'y a personne qui fait son épicerie dans le dépanneur?
Non, personne. Absolument personne. Puis ce règlement-là est en place depuis
le rayon épicerie. Je veux dire, les cannes sont toutes jaunes.
Donc là, avec le projet de loi 85, on fait carrément sauter la limite de 4 employés qui est imposée aux épiceries et aux pharmacies la semaine après 21h, ainsi que la fin de semaine après 20h.
C'était le temps.
Et là, il y a 6000 dépanneurs qui s'unissent ensemble pour dire « Non, 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 non! Ce projet de loi-là ne doit pas passer. On doit continuer à avoir la chance de faire des affaires. »
Gang, ça va bien aller. Comme quand on a interdit la cigarette d'un bar. Moi, ils vont tout fermer! Ils vont tout fermer! C'est la fin de l'entertainment! Non, non, ça a bien été, là. Tout le monde s'en est sorti.
Non, ils ont dit OK aux femmes pour y aller, mais après, ça a amené de la clientèle. Mais honnêtement, là, tu sais, quand ils ont pris et qu'ils ont appliqué cette loi-là, moi, je me demande, c'était quoi le réel problème, là? Y avait-tu une influence monstre?
Quand la loi a été mise en place, si je me souviens bien, c'était le Parti québécois qui était au pouvoir et l'idée, c'était la qualité de vie pour empêcher du monde de travailler la fin de semaine puis faire en sorte qu'ils profitent de temps avec leur famille à faire une épicerie puis à attendre en arrière de 50 paniers pendant 2 heures. Ouais, ça tue un peu la logique, je comprends, là.
Mais c'est un peu le monde à l'envers. T'sais. Puis je trouvais ça intéressant. Moi, il y a de plus en plus d'épiceries dans le secteur de Montréal. Québec, j'ai hâte de voir si on va se lancer dans cette danse-là. Mais dans le secteur de Montréal, il y a des épiceries qui disent « Nous autres, ça va être 24 heures maintenant.
Mm-hmm. »
Il y a des travailleurs de nuit. Toi, tu travaillais le matin.
Ouais.
Quand tu te lèves à 2 heures, puis là, tu dis « Attends un peu, mec, je revienne chez nous à la maison. J'aimerais ça avoir telle affaire. » Tu peux passer à l'épicerie, aller chercher tes affaires, puis après ça, tu t'en vas là.
Je l'aurais fait une fois, puis un autre.
À 3 heures du matin?
Oui.
Ouais. Mais oui. Je ne sais pas si la nouvelle génération, mettons qu'on parle avec Max, là, tu sais, lui, les restos 24 heures partout, il n'a pas connu ça. Là.
Non.
Il n'a pas connu le Ashton à 3h30 du matin sur la grande allée. Là. Mm-hmm.
Mais ouais. Puis concernant les épiceries, ben là, c'est la livraison qui prend de plus en plus de place. Je ne sais pas si ça nécessite combien d'employés puis comment ça fonctionne, mais c'est une business qui est en train de changer radicalement. T'sais, tu parles des jeunes, comment ils gèrent leur épicerie? Ben, comme les vieux qui ont pris l'habitude dans le Vieux-Québec, souvent, ils se font livrer, là, même quand l'épicerie est à deux coins de rue. Là.
Ils font de l'argent avec quoi, les dépanneurs? Hein?
Gratteux.
Ouais, moi, je pensais que c'était avec les gugus qui te vendent 3-4 fois le prix que ça vaut, là, mettons le maquilleur et tout ça.
Une fois, t'as brisé deux slinkies, t'en rachètes pas troisième.
C'est les gratteux,
ouais.
C'est l'alcool, c'est les cigarettes.
Exact.
Je veux dire, est-ce que tu vas à l'épicerie pour aller chercher des gratteux, de l'alcool, les cigarettes?
Il y a une vieille madame qui le fait tout le temps, puis il y a 45 paniers qui attendent en arrière le temps qu'elle fasse valider ses étiquettes. Elle devrait aller au dépanneur, elle, là. Mais le monde normal, qui savent vivre, ils vont au dépanneur.
La seule chose, c'est que, mettons, les dépanneurs en région, Alléluia, qui existent, là. Tu sais, dans des... Moi, Trou-Trou l'Ange Gardien, là, ça, c'est après Bois-Châtel, avant Château-Richer.
C'est le nom du dépanneur, ça, Trou-Trou l'Ange Gardien.
Ça, c'est la municipalité que j'appelle, Trou-Trou l'Ange Gardien. Le dépanneur... Puis celui qui est sur le boulevard Saint-Anne maintenant offre tellement une rapidité puis beaucoup d'efficacité. Parce qu'avant qu'on ait une épicerie à Bois-Châtel, qui était la municipalité avant, on n'avait aucune option. Puis le dépanneur qui a été construit là, c'est une semi-épicerie. Là.
Ah, mais c'est pareil comme à Saint-Fulgent. Je veux dire, le Chez Roger, c'est pour tous ceux qui ont pour tous ceux qui ont un chalet dans le coin des Monts-Valin, puis tout ça, c'est comme le pit stop nécessaire. T'as Chez Achille aussi, je veux dire. Les gens s'organisent, puis les dépanneurs de petites municipalités, pour moi, sont, encore une fois, ne sont pas menacés parce que tu permets à une épicerie d'avoir 6 employés au lieu de 4 le dimanche soir. Ouais. Ouais, voyons donc.
Non, non, les dépanneurs qui vont bien vont toujours bien aller. Moi, mon dépanneur préféré, c'est à Wendake.
Mm-hmm.
Il y a le dépanneur, il y a du stock bien en masse là-dedans. Ben, en plus, il y a une sac express.
Oh yes!
Puis tu peux aller chercher ça jusqu'à 22 heures. Ils sont ouverts 7 jours sur 7. Tandis que quand je vais à sac à Val-Bélair, ils ferment ça à 18 heures.
Ouais!
C'est
souvent la façon stratégique d'avoir une bouteille de vin à des heures où la SAQ ne travaille pas. Hein? Les fameux comptoirs SAQ.
Ça ferme à 18 heures.
Ouais, ouais, ouais.
Pense aux-y 30 secondes. Certains jours, dis-moi, parce qu'il y a d'autres jours où ça ferme plus tard. On termine avec ça, mon ami. Puis je ne sais pas, Pascal, si tu as eu ce genre de défi-là au primaire ou encore au secondaire, mais moi, quand j'étais jeune, à l'école Sainte-Chrétienne, dans le secteur de Giffard, il y avait un défi qui circulait où les gens... se mettaient en hyperventilation, puis après ça, se coupaient eux-mêmes la respiration.
Sérieux, c'est extra-naturel.
Tombaient dans le coma.
J'ai un cousin qui a perdu connaissance dans l'autobus en faisant cette connerie.
Tu ris?
Ouais, on faisait ça.
Non, mais je veux savoir, c'est qui trouve ça drôle?
On se fendait à la face, des fois, en tombant.
Les conneries de Flo sont pas nées avec TikTok.
Non, non, c'est ça.
Ça existait avant.
Avec les flots. Les flots font des conneries de flots.
C'est juste qu'on disait, il paraît qu'à telle école, il y a un gars qui a fait ça. Maintenant, on l'a d'en face chaque soir. Fait que
là, nous autres, nous disaient, si tu fais ça, tu vas avoir le temps de faire un rêve puis tu nous raconteras ton rêve. Fait que là, les gars et les filles se mettaient en hyperventilation puis des fois, on prenait un sac de papier. Puis ils respiraient longtemps. Puis après ça, ils se coupaient eux-mêmes l'arrivée d'air.
Repose-moi donc la question.
Ils tombaient à terre.
Tu sais, tu me dis...
T'en as-tu eu, toi, au primaire, au secondaire, de ce type de défi?
T'es-tu auto-choqué? C'est ça qu'il
veut savoir.
Les gars,
répondez donc à la question à ma place. Bon. Mettons qu'ils posaient la question s'ils répondent, là. Voyons, Yannick, je me suis jamais auto-choqué pour perdre connaissance au primaire avec un sac brun en étant en hyperventilation.
D'autres défis?
Ben, le défi de la course, du dodgeball, du ballon poire.
Tu veux-tu l'essayer de t'auto-choquer? Ben, tu le contrats ton rêve?
Ah oui, je vais le faire en onde.
Quelle enfance de merde.
Ouais, je te rejoins un peu là-dessus.
Le moment où j'ai eu le plus de gêne puis de frivolité, c'est la bouteille dans le garde-robe. Là, à un moment donné, pis ça fait pas mal à personne.
Ah, la bouteille
qui tourne,
frenchée, puis pogner des
roues. Tu jouais tout seul dans le garde-robe?
Oui, je m'auto-frenchais. Voyons.
Je me pognais les seins moi-même.
Ben, je me disais que t'avais un grand garde-robe pour être une gang là-dedans.
Garde, t'as donné une enfance de marde, toi, pour avoir connu ça.
Non, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il y a des défis de TikTok. Là. Puis même, on a eu le Icebox Challenge.
Ice bucket challenge, oui, mais c'était pour une bonne cause, ça.
Oui, mais c'est parce qu'il y en a qui se sont défaites la colonne vertébrale avec ça, là. T'as-tu vu celui-là qui est avec un genre de pelle, là? la grosse pelle mécanique est allée chercher de l'eau.
Ouais.
Elle l'a levée, elle l'a mis au-dessus de la tête du gars, puis ça a lâché directement sur la tête du gars.
Comment veux-tu que ça finisse?
Mais ça, c'est la sélection naturelle. Je suis vraiment désolée,
absolument,
là.
Absolument.
Tu sais, en studio, combien c'est auto-choqué ici, là? Yannick, c'est juste toi, c'est ça, sélection naturelle. C'est ça que j'ai.
C'est peut-être ça que j'ai.
T'sais, on va couper ça tout de suite, la conscience. Mais quelle mauvaise idée, là. Je comprends le défi TikTok, mais en même temps, il faut les exposer parce que je suis pas sûr que les parents savent tout ce qui se passe, mais peut-être qu'ils s'en rendent compte dans l'actualité.
Ben, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est dans le secteur de Val-Bélair qu'on a entendu parler de cette histoire-là. Il y a un défi TikTok qui circule. Moi, j'ai envoyé ça à Isabelle. J'ai dit, là, watch tes filles parce qu'ils sont dans ce secteur-là à l'école. Mmh. Et elle m'a dit, je vais leur en parler aujourd'hui. C'est que les gens font un défi qui est assez dangereux. Est-ce que tu connaissais le défi de la virgule?
Non.
Bon, c'est quelqu'un qui disait, « Hey, regarde par là. » Fait que là, toi, tu regardais par là. Puis quand tu revenais, il te mettait le cou à la même place.
Face palmait dans la face.
Ben voyons donc.
Fait que ça pouvait faire une virgule sur ta colonne vertébrale, puis les enfants s'amusaient à faire ça.
Ben voyons donc. Qui s'amuse? Même la personne qui fait mal, elle sent pas mal. Est-ce que je suis bizarre, moi, de ressentir beaucoup de tristesse puis de peur de faire mal à quelqu'un?
Nous autres, on se donnait des bifs, là.
C'est quoi des bifs?
On se donnait des... Tu sais, là, c'est comme flatter avec deux doigts.
Ouais,
là.
Tu slappais.
Ça pince en tabarnouche.
Tu l'essayes, t'as
un peu. Oui, essaye-les.
Nous autres, on se donnait des bines.
Essaye-les, tu vas pogner à la grippe.
Quand on voyait un géo métro jaune, on frappait notre ami.
Ça?
J'ai rien filé.
Regarde, je t'ai fait ça tout de suite après, je me sentais pas bien.
Choke-moi.
Non, oh, OK, parfait. Tant qu'à te donner, donne-toi, passe.
Donc, ce qui circulerait actuellement à l'école de Val-Bélair, c'est le donkey.
Ah.
C'est, t'as ta tête qui est à quelque part, puis il y a un camarade qui te saute dessus ou qui te il te met un poids sur la tête. Puis ils se sont ramassés avec des enfants inconscients de ce qu'on comprend. Là. Et là, l'administration dit, ouais, ça peut entraîner effectivement des blessures graves.
Mais ça, c'est dans le cours d'école. Il n'y a personne, je veux dire, dans le cours d'école. Il n'y a plus de surveillants. Il n'y a plus nous autres. On se faisait surveiller là, au pied carré. On avait un gros tuyau. Puis quand on était plus que 7 dedans, c'était trop dangereux. On avait des médiateurs dans le cours d'école.
Ça nous empêche pas de faire des conneries.
Mais le donkey, à un moment donné, tu les vois qui sont à cheval.
Mais les flots font des conneries de flots. Puis dans le cas présent, ce qu'on comprend, c'est qu'un flot a sauté dans le dos d'un autre.
Un garçon de 5e année.
Pas besoin de passer par TikTok pour ça, là. Du monde qui se sont sautés dessus au primaire et au secondaire, je n'ai vu pas mal. Bon, vous allez dire,
ça
c'est
s'est
sûr.
Ça s'est fait grande allée aussi.
Ouais, ben là, oui, oui.
Au Ashton.
Pas juste au Saguenay, là.
Mais Denis, il y a quelque chose que tu as parlé dans le pit stop il y a quelques semaines, puis c'est la manière dont tu jases de l'actualité avec tes gars. Puis je pense que ça, c'est encore un excellent moment pour parler de « Hey, ça peut paraître bien le fun, mais admettons que tu tuais ou tu blessais gravement ton ami, puis tout ça, juste pour un défi TikTok, la conversation est importante.
C'est
parce
sûr.
Que l'enfant, après, il l'a en tête.
Mm-hmm.
C'est un semi-traumatisme, tu pourrais tuer quelqu'un, mais en même temps,
puis,
c'est vrai.
Puis l'effet de groupe nous rend tellement stupides que si t'as pas eu de conversation avant, tu fais peut-être partie du cercle, puis tu trouves ça drôle, puis après ça, ben, tu te sens mal en tabarnouche.
Il y a un autre défi qu'on se faisait aussi au secondaire, ça, je pense que c'était de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5, là, les Cheerios.
Ça, c'est quoi, ça?
T'en souviens-tu?
Ah, ça, c'est tannant.
Coup de genou directement dans les hanches.
Ouch!
Un Cheerios, c'est pas en arrière du genou?
Ouais, en arrière des genoux.
Il y avait ça.
En arrière des genoux, on le faisait.
Des genoux directement sur le bord de la hanche. C'est ça, tu t'en souvenais pour le restant de la journée.
Il y a des petits gars qui nous cruisaient de même. D'après moi, ils sont encore célibataires. 10 ans plus tard.
Ah, non, je travaillais vos approches.
Ouais, sérieux, ça choque, ça fait des Cheerios.
Enfance de marde.
Je termine avec ça, Denis. Tu n'étais pas avec nous autres en début de semaine. Tu sais à quel point je fais attention aux collègues de travail avec qui je travaille dans mes émissions.
Absolument.
Là, j'ai constaté que Pascal avait besoin d'amour. À Saint-Valentin...
Il s'est inventé. J'en
avais besoin d'amour. Oui.
Elle n'aurait pas de Valentin, puis okay. Elle n'a pas appris complètement à parler italien. Donc, j'ai parti un concours. C'est en collaboration avec les fromageries Victoria, où la fromagerie Victoria accepte de donner 100$ pour le concours. J'ai les boutiques au 7e ciel, eux, ils donnent 200$. Donc, total tout, c'est un genre de 300$ qu'on donne.
Tabarnouche, poutine et jouets.
Oui, pour donner de l'amour à Pascal.
C'est un vendredi drive, ça, poutine et jouets.
Ça dépend pour qui. Quand t'es le trophée, non.
Ça fonctionne par texto ou ça fonctionne par Messenger, sur mon Messenger à moi, les amis. Là, pour ceux qui l'ont, sinon Yannick Marceau sur Messenger, ça va être assez facile de me trouver. Vous devez faire un poème pour Pascal. Lourd, ça peut être un poème drôle, ça ouais. peut être drôle sarcastique, mm-hmm. ou ça peut être un poème vraiment, mais vraiment profond, mm-hmm. qui va faire en sorte que moi, vendredi, je vais faire le tri de tout ça. Wow.
Sortez le Stéphane Ouellet qui dort.
Peux-tu
vous
me tousser dans la face, Denis, d'un coup jour que je suis pas là nord. Vendredi?
Puis, je vais prendre les 10 meilleurs, puis Pascal va devoir choisir les deux grands gagnants. Donc, ça prend un homme et une femme qui vont gagner. Bon. Puis d'un côté, il va avoir 50$ aux fromageries Victoria. Puis de l'autre bord, il va avoir l'équivalent de 100$ au 7e ciel. Et pour ce qui est de la fille, ça va être la même chose. 50$ fromagerie Victoria, 100$ d'équivalence au 7e ciel.
Mais là, tu y vas universel. Tout le monde fait des poèmes.
Goffé.
Ah, j'aime ça. C'est un concept inclusif.
Parce qu'au départ...
Bravo, Marceau.
Oui, ben, parce que je sais pas, j'ai jamais vraiment parlé de cette portion-là de Pascal. Fait que je veux pas prendre de chance, je veux qu'elle soit gâtée.
Enfin, il m'a parlé de rien. Il m'a rien parlé dans ça. Il m'a parlé d'absolument rien. OK?
Fait que là, envoyez-moi ça par Messenger, mais tu sais, Pascal a besoin d'amour.
Ah, ben oui, oui, oui. Mm. C'est connu, là, vraiment pas indépendante, dépendante affective.
Ah, c'est un masque, tout ça.
Oh, oui, oui.
Et derrière ce masque, il y a une femme qui veut un peu de tendresse.
Exact.
Voilà.
Vendredi, vers 12h30, on va effectivement faire la lecture de vos plus beaux poèmes ou de vos plus beaux messages pour Pascal.
Denis, en terminant,
oui?
Tu as parlé que tu avais des bifles quand tu étais
ouais,
jeune.
Ouais, ouais.
Dans le fond, c'est juste que j'ai tenté de t'en donner une, un genre de,
c'est de
coup à deux doigts.
Aucun effet.
C'est ça. La seule chose, c'est que j'ai tapé, c'était quoi une bifle, puis il est écrit... La bifle est une pratique sexuelle consistant à gifler son partenaire sexuel avec son pénis. Et tu m'as demandé de te faire une bifle. J'aimerais que tu revoies tes principes, un, et deux, ce que ça veut dire dans le dictionnaire.
Je m'ennuyais.
Avant de faire des demandes.
Je trouvais que c'était inclusif. Là.
Je m'ennuyais du petit.
Mais ça, si, as-tu quelque chose pour moi, pour la bifle? Ou...
Ça s'appelle un strap-on. Merci, Denis.
Allez.
Salut, là.
Salut, tantôt, 14h. Pascal CV, elle a une vie privée, elle a un Valentin, tu fais ça pour rien. Oh boy, il y a des gens qui ont de l'info.
Plus que moi, on dirait. C'est qui, ça?
Est-ce que c'est un Italien? Il y a peut-être une piste, là. 12h31, on revient. Vous avez des choses à nous dire d'ici là. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Après la pause, on parle avec Olivier Primeau. Olivier Primeau, l'influenceur. Olivier Primeau, l'homme d'affaires. Il va venir nous parler de l'eau.
Oui. Trouves-tu ça sexy?
Vraiment. Okay. Après la pause.
Boulevard 102.1.
Midi 39, mon nom c'est Yann Marceau, son nom elle c'est Pascal CV, on est avec vous jusqu'à 14h, gros show aujourd'hui, Valérie Godreau va être avec nous tantôt, qui est chroniqueuse au soleil, on va parler de la fameuse partielle de l'individu qui va remplacer Pierre Fitzgibbon, ça a fait jaser tantôt dans le pit stop, on va parler des tarifs qui monopolisent aussi l'actualité avec Donald Trump, Louis Gauthier va être là, notre chroniqueur international sur la route, puis Pascal va nous faire d'autres nouvelles pour nous parler de ce qui se passe dans l'actualité, bien entendu, mais avant À cette heure-ci, il vient d'arriver en studio. On ne sait pas trop comment le présenter. Sais-tu, j'aime mieux homme d'affaires.
Okay.
Parce qu'influenceur, je pense qu'il est déjà passé cette étape-là. Il est plus homme d'affaires aujourd'hui qu'influenceur.
C'est quand même une machine de marketing. Ouais, ben c'est oui. Ça. Sauf qu'on pourrait faire comme Sébastien Benoît dans Coup de foudre puis dire « Olivier Primo, c'est… » Puis lui, se décrit.
Ah, il pourrait se décrire lui-même. Salut, Olivier Primo.
Ça va bien?
Ben oui, content de te jaser. T'es à Québec depuis un bon bout, là.
Non, je suis arrivé hier.
Ben voyons, je te vois tout le temps à Québec. Tu fais tout le temps des vidéos.
C'est ça, ça, c'est le pouvoir des réseaux sociaux.
Ouais.
Mais entrepreneur, c'est bon. Influenceur, moi, j'accepte très bien le terme influenceur.
Ouais. T'as-tu adopté la ville de Québec? T'es-tu à veille de t'acheter un condo ici?
Ah, je suis pas à veille, mais j'adore la ville de Québec. J'ai de la famille qui vient d'ici. J'ai déjà animé à la radio aussi, moi.
Ouais, à Énergie dans le temps?
Énergie, à l'époque, 2000.
La fin de semaine?
Ouais, la fin de semaine.
2017.
T'étais-tu aussi sérieux dans le temps que tu l'es maintenant?
En fait, je pense que oui, c'est juste que je le montrais moins. Fait que,
tu montrais moins ton côté sérieux?
C'est ça, fait que non, la carrière d'entrepreneur évolue avec mon âge, puis c'est ça. Mais...
Ça te gosse-tu que les gens, peut-être pour certains, te prennent pas au sérieux, même quand tu t'en vas dans la table plus sérieuse?
Pas tout. Ça fait partie de la game. Non, ça ne me nuit pas parce qu'il y a des gens qui me suivent justement pour des reviews de poutine, comme il y en a qui me suivent pour le Beach Club, comme il y en a qui me suivent pour ce que je fais en ce moment avec l'eau. Je veux dire, j'aime toucher à tout. Fait que j'ai toutes sortes de clientèles, j'ai toutes sortes de gens qui me suivent. Fait que ça fait partie de la game. Il y a des gens aussi qui ne veulent pas me suivre parce que je suis plus sérieux. Fait que à un moment donné, je vends de la poutine congelée aussi. Je suis très content.
Ce qui est hallucinant quand on parle d'Olivier Primo, c'est que tu laisses personne indifférent. Autant qu'il y a des gens qui t'adorent, autant qu'il y a des gens qui disent ouais, on sent bien qu'on le voit tout le temps, aimerait ça peut-être le voir moins. Mais il n'y a pas personne qui n'a pas d'idée sur toi. T'as-tu remarqué?
Oui, je te confirme. Je suis c'est polarisant qu'on dit
oui.
Ça. Je suis polarisant. Non, mais moi, c'est ça. Que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, en fait, je suis pas content que tu m'aimes. Mais excuse-moi, en crise que tu m'aimes pas. Ouais. Je veux dire, moi non plus, j'aime pas tout le monde. Là.
Tu t'es jamais posé la question à savoir si, avec ta carrière d'homme d'affaires, ça allait te nuire à un moment donné. Là, de plus en plus, tu rencontres les ministres, puis on va parler de l'eau tantôt. Un sujet qui est très cher à penser.
Ah, moi, je trouve Olivier Primo très sexy pour ce sujet-là, tu
voilà,
le sais. Là.
Tu veux, pour ce sujet-là.
Ça fait 10 ans que je vais en parler.
Pour le reste, là, elle dresse un mur.
C'est
un mur de fer.
C'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que moi, l'image. Tu penses bien ce que tu veux, moi, ça me dérange.
Là, tu as acheté des droits sur l'eau.
Exact.
Ça t'est tombé comment dans les mains, ça?
Ça fait plus que 2 ans. Je voulais avoir dans ma carrière d'entrepreneur, justement, une compagnie publique. Puis, tu sais, c'est la mode aussi, là, quand tu veux faire ça, acheter une compagnie publique, il y a tellement de compagnies là, de minerie, de mines là, ou de je sais pas quoi, peu importe où au Québec, puis ça fonctionne juste pas. Fait que tu peux acheter une genre de coquille, entre parenthèses, publique. Fait que tu sais, la job est déjà toute faite. Puis quand j'ai commencé à choper ça avec la personne qui s'occupait de ça avec moi, il m'a présenté cette, entre parenthèses, coquille, qui est zéro une coquille, quand j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait dedans. En fait, c'était juste des permis de captation d'eau. Fait que là, j'ai dit comme, OK. Il me dit, toi, t'aimes ça les affaires funky? J'ai quelque chose pour toi. J'ai une compagnie qui possède des permis de captation d'eau parce que c'est important de savoir, je le répète souvent, l'eau appartient à tout le monde. L'eau appartient pas au gouvernement, appartient à la collectivité.
Collectivité mondiale ou territoriale?
Territoriale. Fait qu'au Canada, en fait. Mais là, je m'avance, mais au Québec, je pense que c'est provincial, l'eau. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu peux, c'est un petit peu drôle. Fait que l'eau appartient à personne, sauf que tu peux acheter le permis pour la pomper.
C'est ça qui est fascinant.
Fait que, en fait, elle appartient à la personne qui a le permis. On s'entend parce que de bord, tu peux rien faire avec.
Ouais.
Fait que, tu sais, nous, la compagnie Prime, là, où on a acheté où on a investi dedans là, pour acheter les permis, on a énormément de terrain aussi. Fait que nous, on a acheté le terrain. C'est des dizaines de kilomètres carrés, là, c'est gigantesque. Et on a acheté le terrain par-dessus les sources, parce que nous, c'est des sources sous l'eau, c'est pas des sources de surface.
Uh-huh.
Mais, tu sais, le terrain m'appartient, tout ce qui entoure l'eau m'appartient. Mais l'eau ne m'appartient pas.
Okay. Puis tout ce que tu vas pomper, tu vas avoir des redevances à donner
exact.
Au Québec.
Exact. Fait que les redevances, c'est 0,0001 cent.
Ça n'a pas de sens.
Par litre qu'on pompe. Fait que tu sais, les grosses compagnies comme Pepsi et Coke qui pompent notre eau du lavabo, notre eau du robinet, là, notre eau potable, c'est nous qui payons pour ça. Ça coûte presque 2 milliards par année à la collectivité ici au Québec pour les usines de traitement d'eau, l'aqueduc. Ça coûte cher, là, entretenir ça. Là.
C'est pas sexy en plus là, pour des politiciens de revamper ça. Là.
C'est zéro sexy. Puis c'est ça, fait que ces grosses compagnies-là, c'est nous autres qui payons pour faire le traiter ça. Eux, ils ont une redevance quasi inexistante. ils la remettent dans une bouteille, ils vissent le bouchon puis ils te la revendent.
OK. Mais, c'est malade. Mais mettons que tu étais Monsieur Burns dans Simpson. Oh, OK.
Tu j'ai mets le même la... nez.
Tu mets... t'es un peu moins jaune, là. Mais mettons que tu mets... Tu dis pas un mot, tu ouais. continues de pomper ça, tu acceptes de payer des très petites redevances au Québec. Tu fais de l'argent sur le dos des Québécois. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu te dis, un peu, je vais aller rencontrer les ministres puis je vais leur parler du droit de l'eau?
En fait, nous, on pompe zéro. On n'a pas d'usine de on pompe zéro. En fait, je vous mets là, on pompe peut-être 20 000 litres par année dans une de nos énormes sources sur 3,4 milliards
mais
de litres.
Pourrais,
oui,
il pourrait
le faire. Oui, j'ai le droit. J'ai le droit. Fait que nous, on a le même genre de permis qu'Esca ou Naya.
Monsieur Burns le ferait.
Exact, Monsieur Burns le ferait. Sauf que le modèle d'affaires des bouteilles d'eau en plastique. De l'eau, soit de source ou de l'eau potable, est complètement mort au Québec. Là. Vous le savez, vous allez acheter une caisse de 24. En fait, le prix devrait être ça, mais c'est pas ça le prix. Fait que nous, on a tué le prix du marché du prix de l'eau au Québec. Fait que tu peux acheter 24 bouteilles Esca, qui est une des meilleures au monde, pour 4,99. Tu essaieras d'acheter 24 canettes d'Evia, qui est la même qualité d'eau pour 4,99. C'est 4,99 la bouteille presque. Là. J'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Ouais.
Fait que nous, ici, on a été élevés en se faisant dire qu'on a de l'eau à l'infini, ce qui n'est pas vrai. Il y a déjà 20 municipalités au Québec qui n'ont pas d'eau potable. Après ça, on s'est fait élever en se disant l'eau n'a aucune valeur. Mais va aux États-Unis en ce moment, voir si on a de la valeur avec l'eau. Va en Europe, voir si on... C'est comme je veux dire. Il y a juste ici, on en a tellement. Tu sais, on a 3% de toute l'eau de source sur la planète pour nous, tu sais, 9 millions de personnes.
Pourquoi tu ne te l'appropries pas en disant « moi, je suis un homme d'affaires, finalement, ça va être financièrement payant, puis au yab, tout ce qui là, est gouvernemental. » Pourquoi est-ce que ça devient ta mission puis ta quête?
En fait, là, quand j'ai mis les mains là-dessus, j'étais le premier, puis je le répète partout, je trouve ça épouvantable que quelqu'un puisse acheter ça. Malgré le fait que... Non, mais c'est vrai.
Honnêtement, je l'ai dit en onde. Puis souvent, j'étais comme ben, « c'est impossible là, de sais. Comprendre qu'un homme d'affaires s'est acheté pour 8 milliards de gallons d'eau renouvelable à vie. »
3,4 milliards, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Mais c'était une image, tu t'es pas nommé cette fois-là, mais pour moi, c'était quasi...
C'est absurde,
mais ça démontrait beaucoup d'incompétence de nos gouvernements. Puis ça,
t'as l'impression que les gens s'appropriaient quelque chose qui appartenait à tout le monde.
Non, je trouvais que c'était ridicule que le gouvernement ne soit pas nécessairement au courant, puis que ça soit pas mantelé, puis que ça soit pas attaché, puis que ça se passe en dessous, puis que finalement, c'est une économie du territoire.
Ben, en fait, ils sont au courant. Fait que là, moi, je veux juste spécifier ça. Oui. Le gouvernement, ils font une bonne job pour préserver notre eau, très bonne. Sauf que ils donnent aucune valeur à l'eau. Mm-hmm. Ils la valorisent pas, tandis qu'il y a plein de places sur la planète en ce moment qui est déjà valorisée. Aux États-Unis, c'est déjà, là, excusez-moi l'expression anglaise, mais elle est déjà tradée là, sur la bourse, elle est déjà échangée, excusez. Mm-hmm. Le cours de l'action, le cours de l'eau est déjà échangé. En Europe aussi, fait ici, on a le pouvoir d'avoir une valorisation de l'eau gigantesque. Avec le plan que j'ai présenté au gouvernement, vous allez voir, c'est vraiment pas un plan qu'on pompe de l'eau dans des bouteilles puis qu'on s'en va vendre ça chez Walmart ou qu'on met ça dans des gros bateaux puis on envoie ça dans les Émirats. C'est pas ça du tout. Puis là, je le tease depuis un mois. Là, fait que c'est le temps que ça sorte, là, ça s'en vient. Là. D'ici là, 2-3 semaines, un mois max, là, ça va sortir parce que le gouvernement l'a en main. Puis encore une fois, j'étais avec Madame la ministre de l'Économie ce matin, Christine Fréchette, exactement. Tout le monde a la même réaction dans les 5 premières minutes. Ils sont comme, comment ça qu'on n'avait pas passé à
c'est
ça?
C'est ça que je trouve ahurissant.
Mais je t'en ai-tu parlé hier, hors d'onde?
Oui et non.
Oui? OK. Je vous en parlerai hors d'onde. vous jugerez par vous-même.
Mais ça, est-ce que ça te scandalise? Est-ce que tu sens qu'ils sont attachés pour ces mesures-là, oui. pour des politiques comme ça, ou tu sens qu'ils finalement te regardent et disent hey, excuse-moi, Olivier Primo, ton nom, c'est ça. Tu peux-tu revenir la semaine prochaine?
Non, c'est vraiment pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça, surtout pas dans le contexte économique actuel avec les États-Unis, puis surtout pas dans le contexte économique que M. le PM, M. Legault a dit « On a besoin de grands projets en ce moment, on a besoin que toutes nos entreprises au Québec viennent nous suggérer des trucs comme ça. » Fait que, tu sais, moi, j'arrive là, je suggère un truc qui coûte presque zéro, on n'a pas besoin d'infrastructure, on n'a pas besoin de rien, puis on est capable vraiment. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question plus précisément, c'est pourquoi tu fais pas juste le faire toi-même, je pourrais le faire moi-même. Mais je trouve que ça n'a pas de bon sens. Fait que j'aimerais bien mieux que la collectivité en profite. Puis je le dis ouvertement, ça ne me dérange pas pantoute, je vais faire de l'argent avec ça. C'est même plus si je vais faire de l'argent ou pas. Ça n'a pas de bon sens. Je ne veux pas être le gars qui a vendu l'eau du Québec.
T'as l'impression que ce que tu es en train de mettre en place avec le gouvernement, c'est un plus beau leg que tu vas laisser une fois que tu vas être parti, si tu l'avais tout simplement exploité pour faire de l'argent.
C'est même pas... les gens à qui j'en parle puis qui sont au courant, c'est Hydro-Québec, là. C'est la même chose, là. C'est aussi gros que ça, là. C'est un leg énorme. Mais les gens ne réalisent pas que l'eau... Puis là, tu sais, les réseaux sociaux, là, ça va vite, les commentaires puis tout ça. Quand je publie sur l'eau, les gens sont comme, tu vas faire quoi avec notre eau, mais qu'on en veuille? Je comprends, mais l'eau est privée maintenant. Je comprends que ça n'a pas de bon sens. Je suis le premier à le dire. Mais c'est pour ça. Je veux faire un leg. Puis le modèle d'affaires que j'ai proposé, sincèrement, il est toujours à travailler. Il n'y a jamais rien de parfait. Mais c'est incroyable pour le vrai.
Il y a la pas du gain quand même. Tu es un homme d'affaires à la base. Mais c'est-tu parce que tu es indépendant de fortune que tu te permets de réfléchir collectivement? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose, c'est une nuance qu'on devrait appliquer avec les ministres, avec les députés, avec les gens en politique, de dire quand on est un peu détaché de cet argent-là, du profit ou autre, oui, même si tu l'es rattaché quand même, ça peut nous permettre de réfléchir beaucoup plus collectivement?
Bien, ça change tout. Est-ce que je dis que les entrepreneurs et entrepreneurs seraient des meilleurs politiciens à cause de ça? Du tout. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que quand t'es indépendant de fortune, c'est vraiment plus facile de dire comme, tu sais, j'en ai-tu vraiment tant de besoin que ça, de tout ça, quand on voit comment ça va mal. Là. Parce que, tu sais, là, on dirait qu'on en parle moins là, depuis un mois, parce que là, on est en guerre économique, mais le Québec, là, l'économie, ça va pas bien. Là, je veux dire, c'est pas, on peut pas commencer à se mentir. V'là un mois, je suis sûr que vous en parliez à toutes les semaines, là. Tout notre système, puis là on parle d'eau, nos systèmes d'aqueduc sont finis. Comme je dis, ça va mal, il faut qu'on pompe de l'argent, on est endetté. C'est comme je dis, c'est tough, là.
On est les citoyens les plus endettés en Amérique du Nord, puis nos infrastructures pour lesquelles on donne énormément d'argent, exact, sont pour la plupart tous des
huiles. Exact, exact. Puis tu sais, la charge gouvernementale, l'État, c'est énorme. C'est fait que tu sais, je veux dire, bureaucratie, mais en même temps, c'est nous autres qui avons choisi ça. On a choisi d'avoir un filet social comme ça. Puis c'est correct qu'on fait travailler des centaines de milliers de personnes, même des millions de personnes, sauf que ça prend des revenus pour payer tout ce beau monde-là. Il faut qu'il soit payé, il faut qu'il soit bien payé, puis il faut protéger nos ressources, il faut les utiliser intelligemment. On a tellement peur, on s'est tellement fait dire au Québec, vous êtes nés pour un petit pain, la fameuse expression, mais c'est encore ça, vous valez rien, vous allez vendre à rabais partout, parce que c'est ça qu'on fait avec nos ressources, là. Pourquoi vous pensez qu'il achète tous les États-Unis, tout le monde veut acheter nos ressources, on les donne?
En plus, eux les transforment et les vendent beaucoup plus cher. Fait que c'est
puis notre argent vaut tellement rien depuis des années que c'est... Tu sais, ça me ferait quand on dit les États-Unis ont tellement de besoin de nous autres, ils ont du pétrole, ils nous en achètent tellement. Ils nous en achètent parce qu'ils payent 40% moins cher, puis eux autres, leur pétrole, ils n'ont pas besoin de le pomper encore. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est...
Avec toute la géopolitique là, actuelle, les conflits dans le monde, le besoin de ressources, l'eau, c'est primordial, on voit ce qui se passe dans le Nord. Est-ce que vous parlez de ça, cette conquête-là face aux ressources naturelles? Oui. T'sais, c'est correct de les protéger, c'est correct de nous les approprier, mais elles sont quand même très, 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 très regardées ailleurs.
Tout le monde les regarde. Tu sais, nous autres, on vit dans une belle époque et on a vécu dans une époque. Moi, j'ai 39 ans, fait que depuis 40 ans, il n'y a jamais personne qui m'a dit « on va manquer d'eau ». Là, je réalise que justement, avec la géopolitique mondiale, qu'il y a énormément de monde qui manque d'eau, là, je veux dire. Mm-hmm. Tu sais, je lisais une étude, là, justement, il y a 2-3 semaines. Je pense que c'est en 2050 ou 2060, 90% des réfugiés climatiques vont être à cause... Il n'y a pas d'eau. Fait que les gens vont bouger où est-ce qu'il va y avoir de l'eau, ce qu'il va y avoir... Tu sais, pensez-y, il y a du monde qui se réveille le matin et ils n'ont pas d'eau. C'est fou, là. Le monde, il manque d'eau.
Mais tu sais, les gens qui voient à quel point on a des ressources au Canada, c'est souvent des gens de l'extérieur. Tu l'as dit tantôt, nous autres, on est ici, puis on ouvre la champlure, on va aller aux toilettes, tout a toujours bien fonctionné.
On lave nos autos avec de l'eau potable.
Oui, exactement. Est-ce que
vous comprenez comment c'est fou? Tu sais, je veux dire, c'est l'affaire la plus absurde. Puis, quand le monde, ils me disent, l'eau est gratuite, elle est zéro gratuite, ça nous coûte 2 milliards collectivement. Ouais. C'est cher, là.
Ouais.
Fait que tu sais, si le plan que j'ai proposé peut... Premièrement, juste entretenir les réseaux d'aqueduc, puis de pompage, puis de tout ça, puis que l'eau, elle redevienne gratuite. Je sais pas, là, comme je pense à voix haute avec vous autres, puis c'est la discussion qu'on a au gouvernement. T'sais, après ça, où l'argent va aller, il faut que ça soit bien utilisé. Mais tu sais, le fonds bleu qui a été créé, la protection de l'environnement, ça prend des ressources pour tout faire ça.
Là, t'as approché des politiciens, t'as jasé ce matin avec Christine Fréchette, la super ministre qui a remplacé Pierre Fitzgibbon.
Très brillante en passant, très, très brillante.
J'en doute pas une seconde, son CV est juste incroyable. Ouais. Est-ce qu'un jour la politique pourrait t'intéresser?
Je le dis souvent, oui.
Ouais.
Pas là. Je vais aller au fond des choses avec l'eau. Puis je suis en plein milieu de ma carrière d'entrepreneur. Puis j'ai 39 ans. Je sais pas. Là.
Pourquoi ça t'intéresse?
Parce que j'aime ça. J'aime justement les enjeux sociaux. J'aime. Puis en fait, je pense que tout le monde qui veut faire la politique, quand tu arrives au début, tu es là pour changer le monde. Là, après, t'sais, des fois, c'est compliqué. La machine, puis tout ça. Moi, je sais que j'ai pas la langue dans ma poche, puis que, justement, tu le dis, je suis indépendant de fortune, fait que je vais pas là m'avoir un salaire, là, c'est pas ça.
Est-ce que l'effet négatif de tout ça vient avec le fait que le plancher des vaches, t'as pas vraiment connu?
Ben, c'est pas vrai que j'ai pas connu. First, j'ai été élevé, je vais dire que l'expression, c'est l'expression préférée à mon père. Tout a été sur le plancher des vaches, et oui, j'ai été. J'ai été élevé, tu sais, je travaille depuis que j'ai 5 ans, là, à l'épicerie de mon père, j'ai passé à la MOP, j'ai été emballeur, j'ai été gérant de fruits, j'ai tout fait, là, jusqu'à temps que j'aille 28, 29 ans, puis je me suis dit, bon, il est temps d'aller faire un peu de part-time pour une canumée, fait que là, ça a changé, mais tu sais, je l'ai fait, fait que les gens avec qui j'ai été élevé, avec qui je travaille, avec qui que je vis, ils savent que je l'ai fait. Tu sais, mon père, je suis pas né dans une famille super riche, là. Tu sais, je veux dire, mon père, c'est pas un milliardaire, là. Mon père vit très bien.
C'était pas toi derrière l'expression « mon père est riche en tabarnak ».
Non, c'est vraiment pas.
Mais il l'est devenu avec le temps.
Oui, oui, oui. Oui, mais mon père a fait fortune, puis il est très bien. Mais tu sais, mon père a 64 ans, puis c'est lui qui vient racler la plage du Beach Club le matin avant qu'on ouvre, là. C'est un vrai travaillant, là. Je l'appelle le vendredi soir, je dis quoi? Ah, je dis « qu'est-ce que tu fais? » Ah, je face dans une OIGA à Saint-Rémy. Il avance des cannes, là, je veux dire. On a été élevés comme ça, fait que je sais exactement. Quand je rencontre des gens, puis ils viennent me dire, hey, c'est malade, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est parce que j'ai fait la même affaire que vous autres pendant 25 ans.
Ouais. Ce serait au municipal, au provincial?
Provincial.
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 Ma fameuse question, pourquoi?
Es-tu de droite économique?
Ouais. Je le dis tout le temps, droite économique puis de gauche sociale, c'est important. Puis il est temps là, que le centre revienne un peu, là, que les confrontations, puis que si tu ne penses pas comme l'autre, tu as tort. Là. Ça, il faut que ça l'arrête, là, parce que ça divise tout le monde, premièrement. Puis. Dans le contexte là qu'on voit, on le voit là, genre la division est au maximum là, puis c'est pas bon pour personne. Fait que dans l'économie, la division est au maximum, dans les enjeux sociaux, la division est au maximum, faut que ça revienne au centre un peu là.
T'as-tu gagné la compétition de drink avec Pascal ou
Je pense que j'ai fini deuxième hier.
Deuxième.
Ouais, deuxième.
Dans quelle catégorie?
Nous, c'était une sangria, fait que c'était quoi la catégorie?
Puis toi, Pascal?
Première.
Ouais, mais c'est ça.
Mais c'était avec l'alcool à Liprimo.
En plus. On a la meilleure vodka saveur.
C'était fait clencher.
Ouais, mais c'était un méchant de belle soirée en passant. Puis, pour encourager tous les business locaux. Fait que, c'était vraiment le fun. Puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés hier, parce qu'on avait une table d'amis. Puis, elle vient me voir. Elle dit, Primo, je t'ai battu. Je dis, bon, parfait.
Elle m'a dit par texto, Primo vient sur l'heure du midi, je l'ai gagné hier.
Ouais, c'est vrai.
Je dis quoi? Il s'est fait tirer, quoi?
Attends, le texte est tard parce qu'on est allé tard au resto.
J'avais mon ami à côté. On a plein d'amis en commun. Puis, j'étais avec un de mes amis. Puis, j'ai dit, bon. Je savais pas qu'elle allait être là, mais ça va être ce soir. Le plus, il me regarde. C'est quoi ton plan? Je dis, ben, j'en ai pas. Je vais juste aller m'asseoir en face. Je vais dire, salut, tu viens à l'émission demain. Ça fait assez longtemps que je cours après toi. Fait que il m'a regardé.
Mais c'est ça que je t'ai demandé hier. Puis là, je m'en rappelle pas parce qu'on avait mis un verre de vin, mais est-ce que tu m'avais déjà invité ou pas?
Oui.
Ah, excuse-moi.
Ben oui.
Je m'en rappelle plus.
C'est ça. Tu m'as ghosté sur Instagram.
Il y a des
Instagram.
Soirées de même. C'est la première fois que tu fais ghoster.
On change l'eau en vin. C'est ça qu'on a fait hier.
Oui.
Olivier Primo, bon retour vers Montréal.
Merci, c'est gentil, guys.
Fais attention à une tempête de neige. Ça a l'air que ça en vient.
Oui, puis là, moi, véhicule électrifié, hein? Fait que Trois-Rivières, ils vont m'attendre pour un petit stop de rechargement. Fait que je vais partir plus tôt que tard.
Un petit café.
Olivier Primo, merci d'être passé.
Merci.
Nous, on s'arrête. Valérie Godreau sera avec nous tout de suite après la pause.
Marceau le midi. Le midi.
Québec se prépare pour la tempête qui s'en vient dans les prochaines heures. Ça va commencer ce soir, l'accumulation de neige. C'est ce qu'on nous mentionne. Entre 2 et 4 cm annoncés. Des rafales entre 50 et 80 km/h. Puis au courant de la nuit, c'est là que ça va commencer à brasser pour nous amener une accumulation de neige entre 15 et 25 cm. Encore là, des grosses rafales, 60 km/h. Ça va brasser. Donc, préparez-vous un plan B pour demain, les amis.
Du genre un plan B de couchette, un plan B de télétravail.
Pour Audrey, elle va devoir dormir à Québec. Là, parce que demain, à partir de... Comment ça s'appelle son trou à la bête?
Deschambault.
Deschambault. Pour s'en venir ici, ça va être extrêmement compliqué. Je pense à tous ceux qui sont dans le secteur de Montmagny, qui travaillent à Québec. Quand il y a des tempêtes de neige, là, c'est tout le temps le premier secteur où tu dis, bien voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un microcosme là, où tu dis, OK, là, moi, je suis vraiment dans une bulle de verre, là, puis on est pogné là, puis on s'en sortira pas.
Un endroit sur la route qui est épouvantable là, quand ça arrive, là, Dufresne-Montmorency. Là où il y a eu l'accident avec l'ivrogne là, qu'on déplore, qui a décimé une famille, là, cette jonction-là, elle est ouverte. C'est juste le fleuve. Le vent qui passe là, tu vois rien.
Il y a des spots qui sont particuliers. Si tu montes vers super Robert Clich, là, vers la Beauce, la 73, à la hauteur de Saint-Isidore, quand il neige, là, c'est un mur de neige. Tu vois pas l'autre bord. Puis quand t'approches, c'est super clair, là, comme s'il faisait soleil, puis il y avait des oiseaux. Puis là, tu rentres dans le banc de neige.
C'est foiré.
Puis pendant 2-3 minutes, après ça, tu sors, t'arrives à Sainte-Marie, puis il fait super beau. Je sais pas qu'est-ce qui cause ça. Faudrait parler avec un météorologue et astrologue prochainement. Parce que souvent,
mais s'arrêter sur la route. S'arrêter sur la route, c'est jamais une option, hein, en passant, pour ceux qui le font. Là.
Ouais.
Et ça, là.
T'essaies d'être le plus visible possible. T'sais, j'ai déjà pogné des tempêtes de neige en Beauce où je roulais à 2-3 km/h. Puis je souhaitais juste qu'il n'y ait pas un gros truck qui arrive en arrière de moi à 150. Là. Mais c'était
on
n'a
pas le droit
secondaires.
De mettre les 4 flashs, là, mais je trouve.
Je le fais pareil.
Ben.
J'essaie
c'est la
d'être
seule
le
façon
plus
d'être
visible possible. Là, t'sais, les lumières rouges, les lumières clignotantes jaunes, t'as pas le choix. C'est de la chroniqueuse du soleil à qui on l'aime bien jaser à chaque semaine. Son nom, c'est Valérie Godreau. Bonjour, comment allez-vous, Mme Godreau?
Bonjour! Ah. Bonjour à vous deux, ça va très bien.
Là, est-ce que vous suivez le maire?
Très bonne entrevue qu'Olivier Primeau, d'ailleurs, j'ai bien aimé.
Bon, merci, merci. Est-ce que vous suivez le maire? Là? Êtes-vous quelque part dans le monde en mission économique? Là?
Non, toujours en attente, mais c'est pas mal confirmé. On va y aller au Texas, hein, parce que moi, on s'en est parlé ensemble il y a quelques semaines, donc que j'allais accompagner le maire. Il a été à Ottawa, il ira aussi à Washington, mais on s'est quand même posé la question, est-ce que, tu sais, pour les entreprises, avec cette rumeur de tarifs, on sait que c'est un contexte là, un peu comme fait le premier ministre et tous les premiers ministres provinciaux présentement. Mais là, je me dis, ça peut-tu aller au point d'être compromis? Mais on me dit que non. Alors, dans un petit peu plus d'un mois, là, je vais me préparer à partir au San Antonio, Texas. Et puis, on pourra, évidemment, je pourrais vous raconter tout ça.
Oui. Là, tu voulais nous parler aujourd'hui de la personne qui va remplacer Pierre Fitzgibbon parce que les élections partielles dans le comté de Terrebonne, ça a été mis en place hier. On a connu le candidat, je l'ai fait entendre dans le pit stop, puis on n'est pas convaincu que la CAQ est très, très positive de gagner ou de regagner ce comté-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Bien, 100%. Tu as entendu François Legault hier, depuis Washington, il s'est fait poser la question en marge là, du scrum sur les tarifs en disant, me semble que tu sais, vous êtes absent, c'est lancé, là, le jeune il doit se contenter d'une vidéo, c'est-tu un peu... Et très bizarre réponse de François Legault, il dit quelque chose comme, ah ben vous savez, je suis confiant de gagner l'élection générale, la prochaine. Comme une façon, en tout cas, moi, j'ai trouvé là, qu'il le négligeait. Je l'écris d'ailleurs. Je trouve que franchement, peu importe le contexte, quelqu'un qui met sa face sur une pancarte, je pense, mérite d'être présenté en bonne et due forme. Et ça ne fait qu'augmenter le contraste d'à quel point le Parti québécois a été proactif dans cette campagne-là.
Ouais.
Écoute, ça remonte à septembre. Pierre Fitzgibbon a démissionné. Tout de suite, ils avaient même, le PQ, ils étaient en conseil de rentrée, là, tu sais, les caucus, la fin de la session et tout. À Rouyn-Noranda, ils ont fait la dernière journée de leur caucus. Ils l'ont fait à Terrebonne dans les heures suivant la démission de Fitzgibbon pour aller un peu planter leur drapeau. Puis j'ai l'impression que la CAQ a jamais réussi à reprendre un peu le momentum relié à cette élection qui a été officiellement déclenchée 5 mois et des poussières alors que le gouvernement avait jusqu'à 6 mois. Ça aussi, ça montre pas un grand enthousiasme. Donc, je suis assez d'accord. On dirait que la CAQ l'a concédé au PQ. Ouais,
ce qui est assez particulier, c'est que hier, tu sais, François Legault, j'ai pogné ça sur RDI, il disait que les partiels, ça servait aux gens à passer le message au gouvernement qui était en place quand c'était un membre de leur gang. Je trouvais ça réducteur là, pour le pauvre diable qui est là. Tu sais, il remplace quand même un super ministre. Là. Il prend la place de député d'un super ministre qui a pris de l'espace comme pas pire. Puis là, il arrive hier, diffuse sa vidéo que je veux faire entendre aux auditeurs à l'instant. C'est pas quelqu'un qui est très vieux, là, je vais vous avertir d'avance.
27 ans.
C'est 27 ans. C'est lui qui remplacerait le super ministre Pierre Fitzgibbon comme député de Terrebonne.
Salut tout le monde, je m'appelle Alex Gagné. J'ai un petit gars de la région de la Nodière puis je me trouve d'ailleurs au cœur du vieux Terrebonne pour vous annoncer que je vais porter les couleurs de la coalition Avenir Québec pour l'élection partielle dans Terrebonne.
On va y souhaiter bonne chance.
Ben, écoute, c'est drôle, c'est très ironique d'entendre M. Legault peut-être négliger là, cette élection-là parce que c'était un peu l'objet de ma chronique ce matin où je disais une partielle, des fois c'est plus qu'une partielle, c'est qu'il y a eu dans l'histoire des élections comme ça qui sont des tournants, hein. ça monte un peu le momentum et François Legault en a largement bénéficié. Geneviève Guilbeault, là, hein, notre très ultra médiatisé vice-première ministre et ministre des Transports, n'oublions pas qu'elle est arrivée en 2017 dans une partielle, dans Louis Hébert. On a fait « Ah ouais, OK ».
Elle sortait nulle part.
Un an.
Ouais.
de nulle part, elle était jeune, elle était, à ce moment-là, est arrivée.
Enceinte.
Une histoire convaincante, enceinte.
Quelques mois avant, elle faisait des capsules de recettes, là. T'sais, c'était pas quelqu'un qui avait été militante en politique face aux caméras, là.
On parle, c'est Geneviève Guilbeault. T'sais, et elle, on l'a connue parce qu'elle était la représentante du coroner dans le dossier de Lac-Mégantic quand il y a eu la tragédie. C'est là que les gens ont dit « Ah, ben, elle ferait une bonne politicienne », puis on a décidé de commencer à s'intéresser à elle.
Absolument. Puis pourquoi c'est intéressant? Puis c'est pour ça que moi, je m'intéresse aux élections partielles, parce que oui, puis François Legault a raison. C'est comme d'envoyer un message sans risque. Tu changes pas de gouvernement, mais t'envoies un petit message. Mais il y en a des partielles qui ont été la bougie d'allumage d'un phénomène beaucoup plus profond. La CAQ en 2017, un an plus tard, ils prennent le pouvoir. Donc, on voyait déjà, oh, OK, les électeurs, ça s'en va tout vers là. Parce que, mais quoi, ces rapports de carbone, ben c'est ça peut venir confirmer un peu ce qu'on voit dans les sondages. Et rappelons-nous comment François Legault a perdu les pédales le lendemain de l'élection de Pascal Paradis dans Jean Talon. Ouais. Écoute, le PQ dans Jean Talon, circonscription libérale, aucune présence du Parti québécois dans la région de Québec, qui l'élise en pleine élection partielle, et le lendemain, François Legault perd sa boussole, ramène le troisième lien. C'était en octobre 2023, ça. Mm-hmm. Fait qu'on vient de pas dire qu'une partielle joue pas dans la tête des autres partis. Ouais. Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est un vrai message qui est envoyé lors d'une partielle.
Mais, tu sais, François Legault, ça fait longtemps qu'il est politicien, puis on dirait que, tu sais, jamais il aurait dit ça pour ce qui est de l'élection partielle de Jean Talon. Il était persuadé qu'il allait réussir à la ravoir. Puis comme tu dis, il a perdu ses repères le soir même, puis le lendemain, où il a dit une affirmation qui est un peu... Je fais de la radio à Québec, fait que je peux me permettre de dire ce que je ressens vraiment. Une déclaration qui est un peu conne, c'est-à-dire on devrait commencer à écouter les électeurs. Ben, c'est un peu là.
Ben
c'est,
oui.
C'est, je pense que c'est la base d'un politicien de représenter ses électeurs, donc par le fait même les écouter. Là. Puis il avait complètement fait le vire capot, puis ramené le dossier du troisième lien alors qu'on l'avait tué avec Geneviève Guilbeault quelques semaines avant.
Ah, écoute, c'était spectaculaire, puis force est d'admettre que peu importe, là, puis je suis même pas pro ou contre le troisième lien, je pense que c'est là qu'on a réalisé, c'était même plus une question d'être en faveur ou non, c'est des deux côtés, les gens sont tannés de se faire niaiser, c'était ça qui était envoyé comme message, et par la suite, en octobre 23 et en juin, lorsqu'on a relancer le troisième lien. On le voit, le buzz, il n'est pas le même. Même les gens qui sont partisans du troisième lien, ils sont tannés de ce yo-yo. Et ça n'a pas été non plus la panacée là, pour le gouvernement. Il n'a pas réussi à remonter les sondages davantage après ça, pas plus qu'en juin, en promettant et le tramway et le troisième lien. Donc, c'est comme s'il y a de quoi qui est un peu brisé, même si Legault a bien... À mon avis, c'est quand même bien comporté dans tout le dossier des tarifs. On dirait qu'on le voit, là, on verra peut-être les prochains sondages, parce que là, bon... Cette situation-là dure, est-ce qu'il va retrouver cette touche? Mais il y a vraiment quelque chose qu'on dirait que quoi qu'il fasse actuellement, François Legault, ça colle pas.
Ouais, il y a quelque chose que je vais aborder avec toi, Valérie Godreau. C'est quelque chose qui s'est passé hier. On regardait l'agenda de François Legault versus l'agenda du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Puis on s'est rendu compte que Doug Ford rencontrait des politiciens de l'autre côté à Washington, tandis que François Legault rencontrait des proches partenaires. Entre autres, il a rencontré Alstom à Washington. Puis là, ben, il a été un peu fâché parce que les journalistes ont comparé l'agenda de Doug Ford à celui de François Legault. Je me pose des questions à savoir, est-ce que François Legault est accompagné de gens qui comprennent bien l'anglais, qui sont capables de bien traduire à François Legault versus la personne qui est en face de lui, le politicien? Est-ce qu'on n'a pas une crainte, justement, que François Legault, ben, on le sait, il ne s'exprime pas bien en anglais. Il n'a jamais vraiment tenu à bien s'exprimer en anglais, visiblement. Il y a un certain malaise. Là, aujourd'hui, ils nous disent « Ah, ben ils vont rencontrer des policiers, mais il va être avec Doug Ford. Ce ne sera pas lui qui va prendre le lead des conversations. Il va comme être à côté en espérant que Doug Ford puisse traduire. Si le gars qui est en face ne comprend rien. » Ça me semble que ça fait petit pump un peu. T'es-tu d'accord?
Ben oui, c'est 100%. Puis je suis très surprise. Puis tu sais, je comprends, là, on fait la politique au Québec et tout ça, mais M. Legault, ça a été un homme d'affaires très prospère avec Air Transat. Je pensais qu'il était meilleur en anglais il y a plusieurs années là, quand j'ai réalisé ça. Et dans ce cas-ci, ben ça ressort. Ça a ressorti dès les premières fois, hein, Doug Ford, où il y a eu des coups de circuit, c'est d'aller parler à Fox News, d'aller parler à CNN. Il était à NBC hier soir. Tu peux pas. François Legault a un anglais acceptable pour répondre aux journalistes québécois en anglais, anglophone, canadien-anglais, dans un contexte politique de politique, avec un vocabulaire de politique québécoise. Mais lorsque tu tombes dans des entrevues plus challengeantes, écoute, à Fox News, on s'entend, là, faut être vite ses patins, là, pour être capable de répliquer. Alors, c'est sûr que ça le brime. Ça l'a brimé sur le plan de certaines, mettons, visibilité publique, là, médiatique comme ça. Et peut-être que tout ça contribue aussi à je suis pas dans les coulisses de tout ça, là, là-dessus, mon opinion vaut un peu ton impression que je partage par ailleurs, c'est de dire est-ce que, justement, cette confiance dans la langue puis dans l'entourage a fait qu'on les a bookés, ces rencontres-là. Tu sais, peut-être que pour M. Ford, qui avait une longueur d'avance, de par sa vision médiatique, de par l'influence de l'Ontario dans ce dossier-là, ça a facilité, ça a ouvert des portes aussi. Alors, je pense que tout ça est relié ultimement. Et là, on se rend compte qu'effectivement, avoir un premier ministre qui est quand même, je veux dire, en termes de contenu, M. Legault, c'est un grand comptable de formation, il en a géré, il est capable, là. Mais est-ce que quand ton débit, ton vocabulaire et ton aisance à convaincre, parce que là, t'es plus dans la rencontre de courtoisie, à te serrer la main, puis avec des mots un peu plus convenus, on est quand même dans un certain degré de discussion, peut-être que là, ça le freine un peu.
Parce que, bien honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Daniel Smith. Moi, j'ai l'impression que Daniel Smith pourrait faire, dans les prochaines années, de la politique au niveau fédéral. Elle est allée rencontrer le méchant orange de l'autre côté, puis elle a passé 2 jours à Mar-a-Lago en discutant avec lui, puis, bon, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais après ça, elle a été invitée à son investiture, puis Doug Ford s'est présenté en capitaine Canada en allant à l'autre côté de la frontière pour jaser avec les Américains, tandis que François Legault s'est contenté d'une lettre. Je trouve que ça, c'est une lettre dans les médias. Oui. Ça en dit beaucoup sur le fait que on a un gros déficit là, de la langue française au Québec, puis il faudrait peut-être mettre l'accent peut-être un peu plus là-dessus si on veut jaser avec les amis de l'autre côté. Là.
Ben, je pense que ça, c'est comme je disais, ça paraît dans ces cas-là. T'sais, on avait Mme Marois aussi là, qui avait beaucoup de misère avec l'anglais, puis à un moment donné, mais quand tu sors de ta province, tu arrives dans un vocabulaire aussi qui est pourtant un langage que M. Legault connaît, là, tu sais, c'est sûr qu'il y a des domaines, tu sais, des fois un petit peu qui peuvent nous échapper, mais là on est dans le domaine des affaires, des transactions, il sait de quoi il parle, mais malheureusement effectivement, il y a ce filtre là de la langue là, qui alors est-ce qu'on doit on exige en ce cas d'un premier ministre, on l'a vu avec Mark Carney à l'inverse, hein, on se demande bien si son français sera de niveau 6 ans pour faire un débat en français. Avoir une entrevue de fond à la télé, là, il commence clairement du côté du candidat à la chefferie au Parti libéral. On voit que son équipe le media train un peu là pour être capable d'être en français. J'utilise un mot anglais pour parler de français, faut bien, en tout cas, c'est un peu ironique, là. Mais c'est sûr que là-dessus, c'est des deux côtés aussi. Donc, on l'exige des élus. Ben, on espère aussi que nos politiciens soient capables de bien se présenter en anglais partout sur la planète.
Les sondages, est-ce qu'ils t'ont surpris de voir que Mark Carney, qui va probablement être mis à la tête du Parti libéral du Canada, là, commence à être aimé de plus en plus? Justin Trudeau, bon, son temps y était fait. Alors, on regardait les sondages, on se disait Pierre Poilievre va ramasser le Canada au grand complet. Puis là, avec Carney, on commence à voir que ça commence à monter, puis que le Parti conservateur commence à descendre, là.
Oui. Moi, je suis pas. En tout cas, je suis surprise de voir cette ampleur-là. Par contre, ça fait quelques semaines là, que M. Poilievre, là, il faut qu'il se réajuste le discours, là, parce qu'actuellement, il a beaucoup de misère devant un économiste comme M. Carney, qui n'est pas le plus flamboyant, il n'est pas le plus coloré. Mais le gars, pis c'est ce que les Canadiens peut-être réalisent à travers ces coups de sonde-là. Il a géré la Banque du Canada, il a géré les crises économiques, il a géré le Brexit comme directeur de la banque en Angleterre. Sur le plan économique, c'est la donnée principale présentement. C'est de ça dont on a besoin. Et M. Poilievre, on le dit en politique, vous connaissez l'expression, s'est fait manger son lunch de tous les bords. Il avait Justin Trudeau comme cible. Il n'est plus là. Il sera plus là. Il essaie d'associer, mais M. Carney, oui, proche peut-être de Trudeau, mais c'est quand même un nouveau visage. Il a fait sa campagne sur la taxe et Carney et Freeland, actuellement dans la course, disent on va la revoir, la taxe sur le carbone, de toute manière. Il parle de sécurité à la frontière. Dans le deal avec Trump, on a un tiers du fentanyl, on a 10 000 personnes à la frontière, on a un discours de sécurité qui émerge du gouvernement libéral actuellement. Fait que c'est... je dirais que l'espace médiatique, idéologique pour plaider. Et l'autre problème, je pense, de M. Poilievre, c'est l'équipe. Ça commence à apparaître, là. Je le voyais avec sa tuque, là, de tout seul avec son petit lutrin, là, à dire Canada First, là. À un moment donné, les gens se disent peut-être aussi, OK, mais qui sera le ministre des Finances? Tu sais, Dominique Leblanc, ministre des Finances, là, c'est pas gênant chez les libéraux fédéraux, là. Pas se le cacher, là. François-Philippe Champagne, pour le commerce. Mélanie Joly, qui a déjà vécu le premier mandat de Trump. Il y a une profondeur de l'équipe aussi, je pense, qui va finir par paraître. Puis M. Poilievre, il est en one-man show actuellement.
Ah, j'ai hâte de voir ça va être quoi la suite. Là. Mais là, au moins, on est sauvé au Canada. On a élu le tsar du fentanyl. C'est un
ben gars oui.
qui
a
la GRC pendant des années et des années. Je m'attendais à ce qu'on le costume là, un peu comme Jean-René Dufort, là, qu'on a costumé avec son genre de chapeau russe sur la tête. Là.
Je m'excuse, mais tu sais, il y a quand même quelque chose de très drôle qu'il s'appelle Kevin Brosseau. Je veux rien y enlever, mais là, vous m'ajoutez du gaz sur mon plateau. Là.
Lâche les Kevin, toi.
Kevin Brosseau, c'est le tsar du fentanyl.
Ouais, ouais. Lâche les Kevin, je les aime. Kevin.
Non, ils sont smart, là. Smart, 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 smart.
Ben moi, il y a un essai que j'ai à la maison qui s'appelle « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins? »
Oui.
Mais bon, ils deviennent tsar du fentanyl.
Arrêtez de bitcher les Kevin.
Mais il y a un beau parcours, là, vraiment. Là, je veux dire, même Jean-Philippe Barry-Guerrard, dans ses livres, prétendait comme un peu aussi... c'est Pierre-Yves qui a fait ça lors aussi, un reportage sur les Kevin.
Ben oui, ben oui.
Donc,
ben oui.
C'est super sociologique. Là, on n'enlève rien ben oui, aux Kevin à l'écoute.
C'est avec Soldia.
Ah, c'est super intéressant. C'en oui. est un là, qui a travaillé fort pour sa gang, là, le Kevin Brosseau, là, tu sors du fentanyl. Là.
C'est cool. Vraiment. On a ben, en tout cas, on peut dire qu'il y a un poste unique au Canada.
Oui, mais c'était pas rien. Je suis conseiller à la Sécurité nationale, au renseignement auprès du premier ministre depuis octobre aussi dernier. Ouais. Là.
J'ai quelqu'un ici oui, qui aura un message là, pour le nouveau tsar du fentanyl qui s'appelle Kevin. Je te fais entendre ça, Valérie.
OK.
Ah ouais, Kevin, hostie, continue comme ça. Ah ouais, Kevin, hostie, continue comme ça.
Bonne fête, Kevin.
Salut, Valérie Gaudreau, on te lit dans le soleil.
Merci, c'est toujours un grand plaisir.
Bye bye. Ça, c'est chiant d'écœurer Kevin.
J'écœure pas Kevin.
Oui. Tu ramènes tout le temps ça.
J'écœure pas Kevin.
Les Kevin sont en choc post-traumatique. Là.
Depuis que j'ai un micro.
Dites-le à Pascal. 418-971-1021. 418-971-1021. Comment?
Le tsar travaille pour cette gang-là.
Ah oui. Nous autres, on s'en va en musique. The Killers avec Somebody Told Me sur les ondes de boulevard. On revient avec notre chroniqueur international, Louis Gauthier, tantôt.
Marceau, le midi.
Oh, j'ai l'impression que vendredi, je vais avoir un bon midi, moi, parce que ce sera la Saint-Valentin vendredi pour toutes vous autres, les petits amoureux. Puis je veux que ce soit aussi pour Pascal une Saint-Valentin, fait que j'y ai trouvé...
Je trouve que tu te gâtes plus que tu me gâtes dans cette initiative-là.
Je trouve que Pascal mérite des Valentins et des Valentines.
Ah oui, oui,
ce qui fait
ça.
En sorte qu'on a un concours organisé dans l'émission. J'ai pas demandé la permission au patron, pas demandé la permission à Pascal.
Non.
100$, équivalent à 100$ pour ce qui est du 7e ciel à faire tirer, donc pour un gars et pour une fille, donc total de 200$. Puis j'ai un 100$, un 50 de bord, un 50 de l'autre à faire tirer pour la fromagerie Victoria. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer de l'amour à Pascal par un message. Puis si vous êtes drôle, si vous êtes sarcastique, si vous êtes très profond dans vos mots d'amour pour Pascal, ben vous avez plus de chances de gagner, bien entendu.
Surtout quelqu'un qui écoute le show puis qui me connaît, là. Je veux oui. dire, c'est la seule. Ouais, c'est le seul agrément que je vais ajouter à ça.
Exact. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de messages d'amour pour la Saint-Valentin qui te sont envoyés. En passant, les gens l'envoient sur ma messagerie, là.
Malheureusement.
Visiblement, ils s'en rendent pas compte parce que dans les poèmes, il y a des gens qui me bitchent.
Ah! Hein? J'aime ça, finalement, ouais. cette initiative-là.
Mais c'est moi qui choisis 10 gagnants.
Tu vas pas en lire.
Ben, je
T'es
je sais
mauvais
pas,
joueur.
T'es pas là. C'est...
Je peux-tu entrer dans le jeu, puis ceux qui te bitchent, les lire?
Donc, on fait ça vendredi vers les entours de midi et demi. On envoie de l'amour à Pascal. Puis, si vous voulez participer, envoyez votre message sur mon Messenger.
Bitchez-les donc... tous. Soit Yannick, Yannick et Yannick. Comme ça, ben, t'auras pas à faire de choix. Tout le monde va te bitcher.
Voilà. c'est la finalité. Louis Gauthier, chroniqueur international sur la route. Des fois, il est au Canada. Des fois, il est aux États-Unis. Rarement sur d'autres continents. Quoique, il doit y aller une fois de temps en temps. Des fois, il est à Beauport. Des fois, Charlebourg. Mais c'est un peu moins exotique. Salut Louis Gauthier.
Hey, bonjour Québec, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va très bien. Hey, le gros orange qui nous fait stresser au Canada comme pas possible. Puis là, ce qu'on a appris, c'est que dans les dernières heures, il a convenu avec Vladimir Poutine que là, son conflit avec l'Ukraine, fallait que ça cesse. Puis là, ben, il va y avoir des pourparlers, puis il va probablement y avoir des cessations de territoire.
Ben regardons, on n'avait pas déjà parlé de ça, mon cher Yannick?
On en avait parlé. Pascal n'était pas convaincu parce que Pascal éprouve un amour particulier pour Donald
particulier,
Trump.
Particulier, ouais, je vais t'accorder, puis je vais parler pour moi. Ouais, c'est l'amour.
Mais c'était la seule issue à ce conflit, c'est-à-dire une cession des terrains déjà acquis lors du conflit. Et condition sine qua non, c'est-à-dire pas de présence de l'OTAN. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Ukraine va devenir membre du Conseil de sécurité de l'ONU, non-votante. Donc, elle va s'assurer une certaine sécurité de territoire de cette façon-là. En échange, ben Donald Trump, lui, il veut avoir 50 milliards de dollars en produits minéraux qui vient de l'Ukraine afin de rembourser la dette de 50 milliards de dollars l'Ukraine a reçu en aide de l'administration précédente. Ça, c'était déjà prévu parce que c'est un money maker. Donc, c'est un deal maker, pardon. Donc, lui, c'est je donne d'une main, mais je reprends de l'autre.
Donc, il va y avoir des négociations qu'on dit immédiates. Puis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va devoir se trouver une autre terre d'accueil dans les prochains mois, prochaines années. Ça, c'est ce qu'on avait jasé aussi. Est-ce qu'il va aller aux États-Unis? Est-ce qu'il serait bien protégé aux États-Unis? J'imagine que oui.
Ben, je ne crois pas qu'il va aller aux États-Unis, mais c'est plus le genre de candidat qui va se retrouver dans un pays comme le Venezuela ou l'Argentine.
Parce que ça se peut qu'il tombe d'une galerie, ces restes-là, là.
écoute, c'est pas seulement que lui, mais c'est sûr qu'il ne sera plus président une fois que ça va être réglé.
Il s'est enfargé. On sait pas ce qui est arrivé, il s'est enfargé dans sa douche, puis là, ben, il est mort, fait que... On passe à d'autres choses.
Non, mais ça va aller en élection. Comme le président, il va quitter, il va avoir des élections. Il va avoir, on va retourner dans un genre de réorganisation du Parlement ukrainien. On n'aura pas le choix parce que, veut pas, tout le Donbass, la région du Donbass, Mariupol, de ce coin-là, comme je parlais la semaine dernière, ça va se retrouver sur une nouvelle nationalité, donc vraiment en russe. D'ailleurs, pas loin de 90 % des gens ont des ancêtres de deuxième génération qui sont russes. Donc, c'était un peu naturel, mais parce qu'on va redéfinir la carte de l'Ukraine, on n'aura pas le choix d'aller en élection pour refaire les territoires, les fameux comtés ou les circonscriptions. Puis, ça va être une grosse fin de semaine, les amis, parce qu'il y a une grosse mission pour mettre le point final à Gaza. Ça devrait éclater dans la journée de samedi à dimanche dans ce coin-là, parce qu'il y a un ultimatum qui a été lancé, ça a passé un peu. Là, on a ri beaucoup du resort Gaza au cours du week-end, mais là, derrière ça, c'est parce qu'on sort les gens, comme on le voit, au compte-gouttes, là, 2 à 3, puis on voit que le Hamas, qu'on ne pensait pas revoir dans le décor parce qu'on pensait qu'on les avait éradiqués, sont bien présents. Et là, il y a une force internationale qui est en train de se préparer. La présence de J.D. Vance en Europe avec le président français au cours du week-end s'est vue avec... il y a la voix à Volodymyr Zelensky également. Mais la présence de J.D. Vance en Europe veut tout dire. C'est qu'on prépare l'ultimatum. On ne sait pas si c'est midi ou minuit samedi. Mais il va y avoir une mission qui va être faite d'extraction des otages restants.
Mais en fait, ça, c'est si Gaza ne les renvoie pas, là, c'est ça?
Bien, Gaza n'a pas l'intention parce que pourquoi on ne les a pas dégagés en bloc alors qu'on y va au compte-goutte 2, 3, 4, ici et là, aux 2 jours, aux 3 jours à la semaine. Donc, ça ne passe pas. Et ce n'était pas ce qui était convenu d'ailleurs lors du traité de cessez-le-feu entre les deux nations. Et là, ben écoute, la goutte a fait déborder le vase cette semaine. Puis c'est sûr que, là, écoute, la mission... Ce que j'ai eu, ce qui m'a été confirmé, c'est que tout le dessin est fait pour qu'il y ait une intervention d'extraction majeure au cours du week-end.
Ouais, c'est toujours dommageable parce qu'il va y avoir des victimes innocentes autour. Là. Le Hamas se cache au travers de la population et sont assez durs à débusquer. J'imagine que les ressources qu'ils ont là-bas sont capables de les identifier, les endroits où ils sont, puis assez rapidement.
Pis c'est tous des peuples avec l'esprit de vengeance aussi. Ça, c'est important dans ces conflits-là.
Les enfants sont élevés dans la haine.
C'est oui, puis au-delà de ça, représailles, ben, moi, je vais t'en offrir. Représailles, je vais t'en offrir. Puis c'est tous des pays aussi qui vont s'affronter avec une grande... un grand devoir d'être représenté positivement dans leur force, dans leur courage, puis dans leurs attaques. Puis ça, ça peut être dangereux à plus long terme.
Oui, c'est oui, puis de toute façon, Pascal, c'est cyclique. C'est arrivé dans les années 60, c'est arrivé dans les années 70, c'est arrivé dans les années 80, ça arrive à toutes les décennies, qui arrive à un accroc majeur entre la Palestine, là, le territoire palestinien et le territoire israélien. Puis en plus de ça, l'État d'Israël, c'est le seul État israélien qu'il y a dans le monde, entouré de pays arabes autour. Sur le plateau de Golan, qui a une signification biblique, le plateau de Golan. Donc, c'est un conflit qui sera toujours éternel, mais ce conflit-ci traîne en longueur. On est sur le neutre. Puis là, il faut agir rapidement parce qu'on a un traité de paix qui est menacé par la non-volonté du Hamas de libérer en masse les 75 otages restants. Donc, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Puis, ça m'amenait à dire, tu sais, j'écoutais, je ne veux pas faire du coq à l'âne, mais j'écoutais le Super Bowl en fin de semaine et tout ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'histoire des tarifs et tout ça. Puis, je suis en train de me demander, puis vous aviez un invité tantôt, Olivier Prémot, qui parlait du centre. Puis, justement, je voulais en parler. On n'est peut-être pas un peu jaloux de ce ménage qui est en train de se faire très rapidement par l'administration Trump. On ne voit pas les résultats immédiats, mais il bouge tellement de choses en même temps qu'il ne peut pas ne pas se produire quelque chose. Alors, est-ce que ceux qui l'aiment puis ceux qui le détestent ne se rejoignent pas finalement au centre pour voir nos priorités, de se parler? J'écoutais la semaine dernière quelqu'un de Québec solidaire ou du Parti québécois qui disait « Ben nous, s'il veut faire du 51e mandat au Canada, ça ne nous concerne pas au Québec. Ah tiens, ça veut dire que tu abandonnes les paiements de péréquation. Donc, pour abandonner les paiements de péréquation parce que tu veux te faire un État au Québec, ça veut dire que finalement, tu vas développer tes ressources naturelles.
Ouais. »
Tu sais, on le dit pas.
Cette discussion-là avec un gars avec qui je joue au hockey, puis il y avait de la misère à faire la nuance entre c'est son président ou pas. J'ai dit, oui, mais Donald Trump travaille pas pour toi. Il travaille pour les Américains. T'sais. Toi, il s'en fout un peu des Canadiens. Tout ce qu'il veut, c'est les ressources des Canadiens. Puis il fait ça pour les États-Unis d'Amérique. Il fait pas ça pour le Canada. Il fait pas ça pour le Québec. Puis je le voyais dans ses yeux qu'il détestait Donald Trump, mais qu'il comprenait pas pourquoi il y a des gens qui l'adulaient aux États-Unis. Ben, c'est parce qu'il y a au moins 50% des États-Unis qui disent « Ce gars-là va faire en sorte que la force de l'Amérique va revenir. »
Bien, la force de l'Amérique, puis ça nous fait ouvrir les yeux en même temps. T'sais, il faut pas oublier la notion là, de voir ça bouge tellement. Puis tu parlais de nos ressources naturelles. Il est en train de négocier la fin du conflit en Ukraine par 50 milliards de dollars de ressources naturelles que l'Ukraine va devoir aux États-Unis pour régler le conflit. C'est une façon de rembourser les 50 milliards de dollars en aide militaire qu'il y a eu pendant le conflit,
ouais,
donné par l'ancienne administration. Alors, tu vois, c'est il rouvre les yeux, il fait réagir les gens. Autant au Canada, ceux qui sont de la gauche et de la droite, on s'exprimait pour dire c'est l'extrême droite. Il n'y a peut-être pas d'extrême droite, c'est peut-être le centre qui s'est divisé beaucoup du côté social, donc vers la gauche. Puis là, ben on s'est tellement éloigné de ce qui est à droite, c'est qu'on pense que c'est l'extrême droite. Puis là, tout d'un coup, avec cette position-là, on retrouve une fibre nationale partout à travers le pays, puis on a de l'air à vouloir se ramener vers le centre, chacun de notre côté, parce qu'on a un élément commun qui est à dire parler de Donald Trump.
Louis Gauthier, c'est toujours un plaisir de te jaser, c'est tout le temps qu'on avait. T'es comme je pensais à ça l'autre jour, tu sais, l'émission Vagabond quand on était jeune qui passait à la télé, là. Tu sais, qui parcourait les villes et villages, là, puis qui nous racontait un peu à travers toutes ces histoires à quel point il y a des gens qui étaient bons, des gens qui étaient moins bons. Tu me fais penser à la toune du Vagabond, faudrait la faire entendre pour ta chronique. Au fil des routes, quand je me lève. T'en rappelles?
On s'excuse, c'est vraiment des secondes, vous allez avoir perdu pour le restant de vos vies.
Puis, oublie pas, n'oublie pas de
Louis, t'es encore là?
Oublie pas de. On le sait pas.
On l'a perdu.
Hey, il y a le sens du punch.
On a l'indication.
Ouais, on le perd. Bon, désolé, Louis, on va continuer sur mon Messenger, mon ami.
On saura jamais ce qu'on aura à ne pas oublier.
Exact. cette série-là...
Oh non, en pause.
Cette série-là est incroyable.
Oh non, en pause.
Tu sais, ça, le vagabond, il parlait pas, il se promenait de ville en ville.
Seigneur.
Quand je me...
Non, c'est ça, en pause, c'est ça, dans le fond.
Ah, OK, on va y aller en musique.
Pas la tienne.
Eux autres, ils chantent mieux que moi. Le clan de la savate, Mandy Monaco sur Boulevard. Bon, on vient tout de suite après.